Sud. Mani l'idée, mani l'idée. La persuasion, le silence. Informer, informer. Cultiver, cultiver. Rigoureux, rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube. Bonne fin d'après-midi. Annonce importante qui prend peut-être pas toute la place qu'elle devrait aujourd'hui, celle de Justin Trudeau ce matin. Usine d'IBM à Bromont. Et si vous suivez un peu l'économie puis la technologie, là, la frange entre les deux, il y a des gens qui disent, j'ai vu toutes les expressions, mais il y a des gens qui disent les semi-conducteurs, là. Les microchips en anglais, mais les semi-conducteurs, c'est le pétrole de l'intelligence artificielle. Là. C'est le pétrole de l'économie, genre, des années qui viennent. C'est la matière première. Bon, il y a quelques années, quand il y avait des pénuries d'automobiles, les automobiles sortaient pas suffisamment au bon rythme, il en manquait dans les cours. On disait, ce qui manque, c'est une pénurie de semi-conducteurs. Pourquoi? Parce que tout ce qui est technologie, aujourd'hui, prend des semi-conducteurs. Et pourquoi il en faut autant? Mais tu sais, autrefois, t'achetais une laveuse. Qu'est-ce que tu veux? T'avais les pièces là pour faire tourner la cuve puis laver le linge. Aujourd'hui, votre laveuse, elle est connectée. Il y a quasiment un ordinateur dedans. Là. Il y a toutes sortes de sensors, là, de détecteurs, que le linge est sec, que ceci, que cela. Après ça, ben, votre laveuse est probablement connectée, c'est-à-dire que vous pouvez la partir à distance avec votre téléphone cellulaire, ce qui fait que dans la laveuse, il doit y avoir des centaines, voire des milliers de semi-conducteurs, donc de pièces électroniques. Dans un véhicule automobile, aujourd'hui, c'est des milliers de semi-conducteurs parce que tout est électronique dans le véhicule. Donc, c'est vraiment d'en fabriquer pour tous les objets intelligents, tous les objets connectés, tous les objets technologiques d'aujourd'hui. C'est devenu une industrie, d'ailleurs. Cette semaine, le président Biden a annoncé une subvention énorme, c'est 8 milliards, parce qu'il y a un enjeu. Les États-Unis ont arrêté d'en vendre à la Chine. Je vous dis, là, c'est comme une fois que tu te mets à t'intéresser à l'importance stratégique des semi-conducteurs dans l'économie d'aujourd'hui, c'est majeur. Donc, ça pour dire que ben le Québec, on peut avoir un rôle à jouer là-dedans. IBM à Bromont, il y a tout un écosystème autour de Bromont. Autant on parle des batteries, de la filière batterie dans le coin de Bécancour. Bon, maintenant, il y a Nordvolt, ça arrive sud, mais c'est surtout le coin de Bécancour. Mais on oublie à Bromont, là, IBM, toutes sortes de joueurs autour qui tournent. Et donc, Justin Trudeau était là aujourd'hui, donc j'allais vous dire, pour annoncer un projet de 227 millions. Le gouvernement fédéral, une aide de 60 millions. Mais dans le secteur de l'innovation et des technologies de demain, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'économie du Québec, là, c'est une annonce de grande importance.
Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin.
Je vous rapporte à il y a 6 semaines. Les gens qui sont des fidèles, des habitués de l'émission, vous allez vous en souvenir. On a fait une entrevue, et c'est à la suite de quelqu'un qui nous avait contacté. Le sujet m'apparaissait un petit peu bizarre, parce que généralement, quand t'as un appareil, t'as des pièces, là, quelque chose brise. Des fois, c'est dur d'avoir les pièces, mais plus possible du tout d'avoir les pièces, c'est plus rare. Surtout quand t'es proche. Donc, le Spider, c'est fait par BRP, donc Bombardier Produits Récréatifs. C'est chez nous. Et donc, quelqu'un me dit, nous écrit, disant, moi, je suis capable d'utiliser mon Spider, ben, je peux plus avoir les pièces. Suivi, un peu moins de 2 mois plus tard, avec le même monsieur, le même individu, Denis Croteau, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Croteau, il s'est passé des choses depuis la dernière fois qu'on s'est parlé?
Oui, beaucoup même.
Beaucoup. Donc là, votre Spider est fonctionnel?
Oui, monsieur. Depuis avant-hier, on a eu les pièces qui nous manquaient depuis 2 ans.
Donc, bon, votre histoire, vous nous avez parlé à Cube Radio. Évidemment, l'histoire était un peu unique. Ça a fait un article dans le journal. Nos collègues du Journal de Montréal ont repris ça. Ça a fait un article. Ça a fait jaser pas mal autour de vous, là.
Oh oui. Même que, tout de suite après ça, le service clientèle Bombardier m'a téléphoné personnellement pour nous dire que la production était relancée. Je le croyais pas vraiment parce que c'était pas la première fois qu'on l'entendait. Mais je suis obligé de m'excuser auprès de Bombardier. Ils ont vraiment fait la job.
Ils ont livré la marchandise.
On a eu toutes nos pièces, toutes les ceux qui attendaient depuis des mois et des mois. On est déjà installés. Nos machines sont devenues fonctionnelles.
Hmm. Je comprends qu'il y a même eu le contenu des délais d'attente pour la pièce. Ils vous ont fait un petit cadeau sur l'installation, là.
Oui, oui, oui. Ils ont assumé des frais d'installation. Le service, la totale. La totale.
OK. Rappelez-nous, bon, parce que c'est pas tout le monde là, qui était à l'épisode là, du 14 mars où on s'est parlé, vous et moi. Rappelez-nous. Donc, vous, vous aviez acheté un Spider seconde main, qui était quand même un bon achat, mais ces appareils-là gardent leur prix. Là. Le prix s'effondre jamais complètement, gardent leur prix. Donc, vous aviez payé ça quand même un bon prix.
Oui, oui. Moi, personnellement, j'avais payé 12 000. Là. C'était le prix que ça valait. Puis, tout allait bien. Une belle machine, tout. Jusqu'à ce à un moment donné, ben là, le compteur a rendu long. Et puis, on n'était plus capable d'avoir de pièces. Puis, tu sais, là, il y en a beaucoup, là, qui avaient la même chose que moi. C'était un basic de 10 ans, donc il n'y avait plus aucune pièce de disponible.
Hmm. Ouais, sauf que je comprends qu'il y a 10 ans, mais comme c'est pas quelque chose, là, c'est pas quelque chose que tu utilises comme ton véhicule pour aller au travail, qu'il y a beaucoup d'appareils, c'est comme les motos, les décapotables, beaucoup de ce type d'appareils-là. Il faut que tu prévois les garder beaucoup plus longtemps parce que tu fais pas 100 000 km par année avec ça. Là. C'est quand il fait beau, quand c'est le fun, tu fais quelques mille kilomètres, mais pas tant que ça.
Non. Puis tu sais, c'est vraiment des véhicules qui sont faits pour long terme. C'est une moto qui est super fiable, tout. C'est juste que le manque de temps ou de volonté ou je sais pas faisait quand on n'avait aucune pièce de rechange.
Ouais. Puis vous vous étiez retrouvé, quand vous me l'aviez raconté, il y avait votre cas à vous. Mais là, dans l'histoire, vous m'aviez dit, ben là, moi, là, je fais partie d'un groupe Facebook parce qu'il y en a d'autres. À un moment donné, un des avantages, une des beautés des réseaux sociaux, c'est que des gens qui vivent des choses semblables, même s'ils n'habitent pas dans le même coin, dans la même région, les gens peuvent se retrouver dans un forum, là.
Oh, très facile de se regrouper. Puis je vous dis, on était vraiment plusieurs. On pourrait parler de quelques mille qui sont inscrits dans mon forum. Et puis, il y en a pas juste au Québec, il y en avait en Europe, il y en avait partout. Là. Le problème était un peu, je dirais, fréquent, là, quand même assez fréquent. Puis, comme Bombardier avait pas le temps, il faisait pas de pièces. Puis, par hasard, ils sont mis à refabriquer des pièces. Puis la madame du service à clientèle m'a confirmé.
Parce que vous avez eu des appels directs de personnes assez haut placées dans Bombardier Produits Récréatifs, là.
Oui, quand même. Tu sais, là, peut-être que je faisais mal un petit peu, là. Tu sais, c'était pas bon pour l'image. Mais j'ai eu une dame qui m'a appelé de Bombardier. Une perle. Tout ce qu'elle m'a promis, ça s'est fait. Les problèmes qu'on a trouvés pour moi ou pour d'autres, elle a tout réglé ça. Puis elle m'a dit que la nouvelle façon de penser de Bombardier, c'est qu'on va avoir des pièces pour nos vieilles machines disponibles sous peu, tout le temps.
Et est-ce que sur le groupe Facebook, je veux dire, ça doit être reçu comme une bonne nouvelle?
Oh oui, j'ai eu beaucoup de commentaires personnellement. Là, quand j'ai donné une date qui nous garantissait nos pièces, avec nos rendez-vous chez le concessionnaire pour les faire poser, mon téléphone est venu rouge.
Ah oui. Hein. Est-ce que vous... d'abord, la réparation, là, je comprends que ça fait 2 jours, mais réparation, nouvelle pièce, là, vous avez reparti le Spider, puis il va bien?
Un nœud.
Ah oui?
Oui, il fonctionne comme un nœud. C'était vraiment la pièce qui manquait, qui contrôlait un peu tout, dans le fond.
Je comprends. Vous avez encore confiance dans l'appareil? Vous m'avez dit tout à l'heure, c'est un bon appareil, c'est une bonne machine, on peut faire longtemps avec ça. Donc, votre confiance, il vous manquait une pièce, mais votre confiance dans le Spider n'est pas ébranlée, puis dans la compagnie Bombardier?
Non. Ce que je pense, c'est que le haut de la compagnie savait pas ce qui se passait dans le bas de la compagnie. Il y avait quelque chose qui faisait que c'était plus pressant de fabriquer que de voir à ce qui marche. Là, ils ont changé le fusil d'épaule, puis on serait supposé avoir toutes nos pièces. Moi, personnellement, j'en ai même racheté un autre pour ma compagnie.
Ah oui? Votre confiance est totale. Là.
Ah, regarde. Puis c'est une bonne machine. Là. C'est pas quelque chose qui est toujours cassé. C'est juste que là, on n'avait pas de pièces de remplacement.
Bon.
Elle m'a garanti qu'on en aurait à l'avenir. Puis j'ai tendance à avoir confiance.
Fait que vous regrettez pas de nous avoir contactés, vous là, vous avez débloqué quelque chose.
Que non. Et puis, je vous dis, il n'y a pas juste moi, là. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient très, très heureux de dénouement, là.
Ben, c'est excellent. On est bien content d'entendre ça aujourd'hui. Denis Croteau, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance, bonne saison de Spider. Et je conclue en disant, Cube change le monde, un Spider à la fois.
Oui, monsieur.
Salut.
Oui, monsieur. Merci, bye-bye.
La fin du monde approche.
Mario Dumont.
Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du schtroumpf grognon, là.
Marie, mon petit.
Il était pas de bonne humeur, pis ça allait pas comme il voulait.
La rencontre. Mon petit Dumont.
Bonjour Marie.
Allô Mario.
Et tu veux revenir sur ce dossier de notre bureau d'enquête sur les coûts électricité, ventilation et autres là, qui n'étaient pas inclus, en tout cas. Il y a deux versions, mais en tout cas, qui ne semblaient pas inclus là, dans le calcul des coûts de rénovation du stade olympique.
Ouais, c'est comme bon, tu sais. C'est ce genre de truc que tu lis puis tu te dis, y avait-tu un enjeu d'acceptabilité sociale que la facture soit en bas de 1 milliard? Parce que quand on nous a présenté le dossier, bon, rappelons-nous Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, qui vient nous dire, bon, ça va coûter 870 millions, c'est pas une petite facture, hein? Puis on allait avoir un beau stade pour accueillir Taylor Swift, puis l'enjeu, là, c'était vraiment, entre autres, la question de la sonorité, tu sais, c'est ce qui avait été souligné par plusieurs en disant les derniers spectacles qui ont été faits au stade olympique sont une réelle catastrophe, parce que si on veut sortir de seulement les activités sportives puis être capable d'amener des... vraiment des shows, des chanteurs, des groupes de l'international ou pas de l'international, peu importe, là, mais l'enjeu de sonorité est super important. T'sais. Et là, ce qu'on apprend finalement, c'est qu'il y aurait pas moins que 91,6 millions qui auraient été oubliés dans la facture, que là, le projet a été mis à jour parce qu'il y a eu certains petits oublis, dont le système mécanique, le système électrique, le système d'éclairage, le système de son, de l'anneau, dans le fond, qui fait partie intégrante là, du stade. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez particulier. En tout cas, moi, ça soulève le doute un peu chez moi.
Ouais. T'as entendu les explications de Michel Labrecque?
Non, pas du tout, dis-moi.
Je l'ai reçu ce matin. Je vais te donner, tu sais, c'est pas parfait. D'abord, la première chose qu'il dit, c'est d'ici ces coups-là, lui, il considère comme plus de l'entretien régulier. C'est des affaires qui sont vieux, de l'électricité. Il dit, on le fait là, pour d'autres pièces. Alors qu'il dit, lui, le gros investissement, c'est que le gouvernement accepte le 870 pour faire le toit. Sa prétention, c'est que le gouvernement met, il dit, allez voir les budgets de toutes les dernières années, le gouvernement, en entretien régulier, met 40 à 50 millions toujours dans le stade. Parce que juste comme dans ta maison, là, juste l'entretien régulier, il y a toujours quelque chose qui brise. Puis là, c'est le fameux 1%, la valeur d'un édifice. Cet édifice-là, il vaut 4-5 milliards. Donc, 1%, c'est 40 à 50 millions par année. Donc, il dit, ces travaux-là, il dit, on les prend là-dessus. Là, ils vont passer sur... D'abord, c'est 90 millions sur 5 ans. Fait que ça fait 18 millions par année. Puis ça va passer comme dans ce qui serait... Faut réparer ci, faut réparer ça, faut changer l'électricité. Donc, il dit ça, c'est comme pas... Lui, il rentre pas dans le gros coup de collier qu'il demandait au gouvernement. Il dit ça va rentrer. Là. Mais c'est sûr que ça fait partie de l'anneau. Tu sais, les deux interprétations sont possibles. C'est certain, je comprends très bien ce que tu me dis, puis moi, je pense un peu de même. Tu dis, ouais, mais là, tu changes l'anneau, ben, l'électricité de l'anneau, ça fait partie. Lui, il dit non, moi, je vais le passer dans des travaux normaux, que de toute façon, cette électricité-là est vieille, elle a 50 ans, il fallait la changer. C'est pas comme, selon lui, dans le gros coup de collier, là, changer, faire le toit, là.
Ok, mais
je te vois sourire.
Ben, tu sais, parce que j'aurais, tu sais, dans les options, tu sais, on se disait, ah, est-ce que l'option de la démolition a été considérée? Ben, si elle avait été considérée, ce que tu es en train de dire, c'est que ce 91, c'est quand même presque 100 millions. Là, on parle de 91,6 millions. C'est une économie qu'on faisait la première année. Tu sais, je trouve que quelque part, c'est parce que moi, ça m'agace, moi, ce genre de comptabilité un peu créative, là. Puis, tu sais, tu me l'expliques, ok, parfait, ça fait du sens, il y a des dépenses chaque année. Mais, tu sais, la journée, Mario, ou d'un entrepreneur qui vient te voir puis qui dit ton projet de maison, il va coûter tant, tu veux refaire ton toit, ça va coûter tant. Mais j'ai pas mis sur ta facture le fait que tu avais de l'électricité qui passait dans ton toit par contre. Ça va être comme un petit 50 000 piastres de plus. Puis en plus de ça, ben écoute, il y a un système de ventilation mécanique parce que là sur ton toit, tu as ton air climatisé, Marie, donc je vais charger 20 000 piastres de plus, tu sais.
Je t'entends. Puis tu dis on veut pas ça. Mais je t'entends là, puis ce que tu dis, là, c'est ça qui arrive, finalement, dans nos vies. Là. C'est ça qu'on veut pas, mais c'est ça qui finit par nous arriver.
Ça nous choque, mais c'est ça qui arrive, là. Puis c'est même pas juste les analystes, tout le grand public, les vox pop qui ont été faits dans la rue, c'est quoi la première chose que les citoyens ont dit? Ça coûtera jamais 870 millions. C'est sûr que ça va coûter plus cher que ça, puis qu'ils vont nous arriver avec d'autres frais. L'annonce, elle a été faite il y a un mois et demi. Puis là, c'est comme, ben là, c'est sûr qu'il y avait ce petit... Hey, c'est 100 millions, Mario, là. Donc, je me questionne à savoir, c'est ça, s'il n'y a pas un enjeu d'accès... Écoute, je trouvais ça comme quand même que c'était un bel add-on quand ils nous avaient présenté le projet, que c'était pas un milliard. Tu sais, que c'était comme juste un petit peu en dessous d'un milliard. Je me disais, est-ce qu'il y a quelque part où il y a de l'acceptabilité sociale là-dessus? Est-ce qu'il y a un petit coup de sonde qui a été pris à droite, à gauche pour voir jusqu'à combien on pouvait présenter? Et puis, qu'est-ce qui était acceptable pour le stade? Parce qu'ils savaient que ça allait être un dossier chaud quand même, difficile. Puis là, tu dis, ben, ça, on pourrait mettre ça dans les frais d'entretien généraux, tu sais, qui sont faits chaque année. Puis comme ça, ça va baisser un peu la facture globale de tout projet. Bon, je fais des hypothèses, Mario.
Mais il y a
quelque chose qui me dit qu'il va y avoir d'autres petits montants comme ça qui vont arriver à droite, à gauche. Puis tu sais, le projet, il est même pas commencé encore. On est même pas proche de la première pelletée de terre.
Par contre, le coût de démolition, Michel Labrec maintient qu'on est dans une couple de milliards. J'avais pas réalisé la démolition du pont Champlain. En termes de quantité de matériaux. Moi, si tu me l'avais demandé à l'œil, je connais rien, mais à l'œil, je t'aurais dit, ben non, mais c'est bien plus gros que le stade, là. Non, c'est la moitié. Le stade, c'est le double en quantité de béton, de métal. Le stade, c'est le double du vieux pont Champlain qu'on a démoli. J'avoue que ça m'a... J'avais pas réalisé.
Imaginaire.
Je pense
qu'on réalise pas, tu sais, le stade, l'esplanade. Je sais pas ce qui compte là-dedans, par contre, parce que c'est sûr que tout le... Si tu prends... Ben, juste la tour, elle est... C'est énorme, là, juste la tour en béton. Là, ça doit faire un bout de pont Champlain à elle seule, là.
Non, mais moi, dans mon œil, avec mes évaluations d'épais qui regardent ça de loin, en passant sur le nouveau pont, puis qui regardent le vieux, puis tout ça... Ça m'a surpris, mettons, de penser. Mais ça a été mesuré là, en quantité de matériaux, c'est le double. Bon, enfin, c'est. On n'en sortira jamais de ça. Est-ce que, tu sais, encore que si le projet se réalisait bien, puis, tu sais, si tout se passait comme prévu, ça serait déjà rien. C'est juste qu'on a peur d'arriver en cours de route, puis des mauvaises surprises, puis là, ben, en défaisant, on s'est aperçu que, puis là, l'eau avait rentré dans ça, puis je sais pas. C'est ça qui me fait peur, moi.
Ah, puis des enjeux techniques sûrement, puis de d'ingénierie quand ils vont, tu sais, se mettre à mettre l'anneau, puis tu sais, ce serait surprenant que dans ce genre, bon, ils ont dû mettre des contingences dans le projet, là, normalement, tu prévois beaucoup, quand même. Tout le temps. Ben, c'est ça, non, surtout dans ce projet de cette ampleur-là, il doit quand même avoir beaucoup de contingences pour prévoir certains coûts qui n'ont pas été prévus, puis des problèmes qui vont être rencontrés en chemin, mais... En tout cas, je trouve que ça arrive vraiment tôt dans le projet de savoir qu'il y a déjà un 91 millions qui s'ajoute, puis on peut dire qu'il aurait été fait, pas fait quand même. Ça reste qu'il s'ajoute au projet total, tu sais.
Ouais, effectivement. Mais bon, notre bureau d'enquête a fait son travail minimalement pour fouiller tous les contrats et rendre l'information disponible au public, Marie. Merci, je te souhaite une bonne fin de semaine.
Bonne fin de semaine, Marie.
Cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
On parle beaucoup de surtourisme en ce moment. Il y a tout plein d'endroits à travers le monde qui implantent, tu sais, toutes sortes de mesures pour limiter le surtourisme. Vite comme ça, tu sais, je pense à Amsterdam. C'est l'été passé, je pense, qu'ils ont adopté une motion pour que, bon, les bateaux de croisière accostent hors de son centre historique. Il y a Venise aussi récemment qui demande maintenant aux touristes journaliers de payer un certain montant pour venir passer la journée dans la la ville, les îles de la Madeleine aussi, qui demandent à partir du, je pense, c'est le 1er mai ou 7 mai?
C'est le 7 mai.
7 mai.
Ou premier, je me trouve, c'est début mai.
Début mai, qui demande maintenant une redevance qu'on va collecter. Ça va aider à toutes sortes de choses. Ça va aider à la collecte de matières résiduelles.
Mais
ça
c'est
va
un petit peu différent, les îles. C'est-à-dire que... Ouais. Parce qu'en plus, oui, il y a beaucoup de touristes, mais c'est qu'eux, leur prétention, c'est que ça coûte cher être les îles. Tu sais, je veux dire...
Ouais.
Ils peuvent pas... c'est un banc de sable, les îles. Fait qu'ils peuvent pas enfouir leurs déchets. Faut qu'ils sortent leurs déchets. Ils ont un paquet de problèmes, de
mais
contraintes.
Mais s'il n'y avait pas beaucoup de touristes non plus à l'année...
Ouais, ça amène des retombées.
Ça va aider aussi aux installations récréotouristiques.
C'est ce qu'ils promettent. Bon. Ils disent que tout l'argent va aller à des meilleures installations.
Mais on tu sais, en tout cas, il y a certaines mesures. Là,
mais je te laisse finir, mais je vais te dire quelque chose de terrible sur le tourisme après.
Ah oui? OK, bon.
Une autre version de...
Un autre
vas-y, vas-y,
okay,
vas-y, un autre
angle. Mais là, moi, où je m'en vais, c'est au Japon. Le fameux Mont Fuji, tu sais, qui est hyper célèbre, il attire énormément de touristes, mais là, c'est une petite municipalité qui en peuvent plus des touristes parce que, à cause des réseaux sociaux, entre autres, il y a un point de vue hyper populaire. On a d'ailleurs une photo qu'on va vous montrer. Ce qu'on a ici, c'est une chaîne de c'est un petit supermarché qui est hyper populaire au Japon. Puis là, ben on aime avoir cette marque là qui donne avec en arrière-plan le célèbre volcan. Donc là, les touristes courent après ce point de vue là. Mais là, la petite municipalité sont tellement à bout de tout ça parce que ben les touristes ils savent pas vivre. En bon français,
voyons,
là.
Donc, là.
Ils savent pas
vivre.
Pas
des touristes qui sont colons.
Ils laissent des déchets. Puis, tu sais, s'il y a une place où on ne laisse pas des déchets par terre, c'est bien au Japon. Ils sont tellement respectueux.
Ils sont propres.
Très, très, très propres. Donc là, il y a tout plein de déchets par terre. Il y en a même qui montent sur le toit de la bâtisse qui dérange un peu partout. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dresser une palissade pour cacher le mont Fuji. Oui.
C'est donc bien fou.
Je sais, ils vont faire un gros filet de 2,5 mètres de haut, 20 mètres de long. Puis là, ils vont dire, là, arrêtez de venir dans notre stationnement. On va venir prendre des photos parce que là, ça suffit. Vas-y,
tous les endroits dans le monde qui disent avoir du sur... Moi, j'avais eu cette discussion-là. C'est, écoute, j'étais encore en politique. J'étais dans un voyage officiel à Londres. J'avais rencontré un monsieur qui était de la ville de Londres, puis était responsable du tourisme. Puis il disait, ici, il y a trop de touristes. C'est-à-dire que, je pense que c'était 30 millions de touristes par année. Puis tu sais, il dit, dans le fond, mettons, à 27, ce serait parfait. Puis il dit, les trois derniers millions, ben, il y a encore. Ils font juste du trafic, puis tout ça. Puis... Sauf que quand une ville, puis ça, personne ne va jamais le dire, c'est hyper tabou parce que dire ça, c'est comme être élitiste. Mais quand tu veux passer de 30 millions de touristes à 27, parce que tu dis, mes trois derniers millions de touristes, là, ils sont plus de troubles que d'apports, ils sont plus de problèmes que de retombées positives. Le touriste que tu veux plus, est-ce que c'est le touriste qui arrive de New York, full d'argent, meilleur restaurant, laisse de l'argent dans les plus beaux hôtels.
Là, tu me parles de sélection de touristes?
Ou c'est l'étudiant qui vient avec son pack-sac, qui mange rien, qui dépense 9$ par jour, qui sait...
Qui passe la journée dans des cafés, puis il boit juste un café.
C'est ça, puis il sirote trop longtemps, puis il utilise le Wi-Fi, puis... fait que... Mais ça, tout le monde va te dire, si tu poses la question à un officiel, à un maire de ville, il va te dire, ben non, pas du tout, jamais, là. Inévitablement, quand tu dis que tu as une politique pour réduire le nombre de touristes, tu chasses ceux qui n'ont pas les moyens. Tu veux garder dans ta ville ceux qui laissent des retombées, ceux qui laissent de l'argent. Fait que ça, c'est le plus gros tabou. Personne ne va jamais le dire, ça se dit pas, c'est laid de dire ça, mais c'est une vérité crue et brutale.
Mais donc, ça serait...
Ben, c'est un petit peu plate, parce qu'en même temps, tu te dis, écoute, des étudiants, des jeunes qui n'ont pas beaucoup de sous, mais qui voyagent, tu sais, qui veulent faire le tour du monde, c'est le fun, c'est formateur.
Oui, mais comment t'arrives pour séparer tes touristes en demandant un montant en entrant dans le pays?
Ça se fait par un ensemble de petits moyens pour que tout coûte quelque chose, tout coûte plus cher, puis tout ça, puis de d'essouffler celui qui n'a pas d'argent, il va finir par se dire, hey, j'ai eu tout ça, cette ville-là, moi, j'ai sacré mon camp. Ça... M'en aller en campagne.
C'est moins lustré quand t'en parles.
C'est moins, c'est moins écolo parfait quand j'en parle. Hein.
Non, t'as raison, mais je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai qu'il y a toujours
C'est plate la vie.
Quelque part.
Ouais. C'est plate la vie des fois. C'est trop. On perd un certain idéalisme.
C'est vrai que là, je suis un petit peu moins dans mon monde de licorne.
Ouais. C'est pas bon que tu tiennes avec moi.
C'est pour ça que j'ai juste une intervention dans ton épisode,
ouais,
Mario.
Je pense que nos boss, ils disent, faut pas...
on va me briser.
Elle a tellement une belle approche, Stéphanie, faut pas qu'elle entende trop du monde, là.
On est en train de me briser. Oh! Non, mais on fait des blagues. On fait des blagues. J'apprends plein de choses quand m'éveilles sur d'autres sujets, Mario. Et d'ailleurs, ne manquez pas la chronique économie avec Francis Gosselin, comme à tous les jours dans l'épisode de Mario. Francis qui anime aussi avec Philippe Richard Bertrand le balado « Prends pas ça pour du cash » qu'on peut écouter en direct le samedi ou sinon aussi en formule balado sur l'application Cube ou au cube.ca. Et cette semaine, on le sait, il apporte toujours un autre regard sur l'économie. Ils vont revenir sur la grève de la SAC, ça a fait énormément jaser. Honda aussi qui a choisi l'Ontario pour sa méga usine. Et ils vont parler de CDPQ Infra qui a mis à pied 160 personnes et ils disent qu'il va y en avoir d'autres. Donc, nouvel épisode de Prends pas ça pour du cash à ne pas manquer cette fin de semaine à Cube.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
Les vrais enjeux. Les vraies questions.
On va parler un petit peu de pêche, parce que bon, ça s'en vient, la saison de la pêche qui est sur le bord de commencer, et je comprends qu'il y a eu certains changements de quotas qui ont frustré des gens dans des belles zones de pêche célèbres, connues, appréciées. Julien Cabana, chroniqueur chasse-pêche, motoneige, plein air au journal, est avec nous. Salut Julien.
Bonjour, ça va bien?
Ouais, ça va bien. C'est un secteur que tu connais un petit peu, là, le parc des Laurentides, puis ce coin-là, là.
Bien, c'est parce que il faut comprendre une chose, c'est que les voyages se vendent un an d'avance. Alors, les gens, la frustration qu'ils ont eue, c'est d'avoir acheté un voyage à 15 poissons de quota ou de limite de possession et prise quotidienne de 15. Et cette année, ils se font dire, tout à coup, ils reçoivent un message, c'est plus 15, c'est 10. Parce que le ministère a changé ça, puis le ministère, c'est lui qui a le droit de vie ou de mort là-dessus.
Ouais.
Fait que moi, j'ai fait des demandes d'entrevue, tu sais, pour expliquer ça aux gens, puis tout ce qu'on m'a dit, c'est que on déclinait ma demande, puis on ne voulait pas m'expliquer plus que ça.
Pas d'entrevue?
Non, ils m'ont dit, ils m'ont envoyé, vois-tu, c'est gelé à côté de moi, là. Tous les détails, pêche au Québec, gouvernement du Québec, québec.ca. Paf, bonsoir.
Les chefs sont dans le tableau, c'est ça la loi, soumettez-vous à ça. Donc, quelle zone, on dit la zone 27, parce que le Québec est découpé en zones, c'est vraiment le parc des Laurentides, donc pour les gens moins familiers, là, le long de la route quand tu pars de Québec vers le Saguenay, là.
Charlevoix aussi, tout ça, tout ce secteur-là ici, la zone 27, c'est la zone la plus limitrophe à Québec, si on peut dire.
Ouais. C'est une zone, il y a beaucoup de pêche, là.
Dans la réserve des Laurentides, il y a plus de 1000 pêcheurs par jour, si on inclut la pêche quotidienne et la pêche avec séjour, c'est 1000 pêcheurs par jour. C'est du monde, ça, là. Puis les gens
Ouais. Le quota, c'est la mouchetée?
La truite mouchetée, oui, puis ils ont touché aussi à l'ombre là, de ce qu'on appelle le char en anglais ou le comment je pourrais dire ça dans le français, l'ombre chevalier.
C'est plus rare, ça.
Oui, c'est plus rare. Il n'y en a pas beaucoup dans la réserve. Il y a quelques lacs qu'il y en a, mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est vraiment la truite mouchetée. Là, imagine que j'ai vu sur un reportage d'un confrère de Radio-Canada qu'une spécialiste avait parlé en disant qu'elle avait fait ça parce que c'était surpêché dans la région ici et que la population avait baissé énormément, la population de poissons.
C'est vrai?
Bon, bien, au moins, par chance que j'ai pu le lire là, tu sais, j'ai pu venir par comprendre. D'ailleurs, comprendra que je lui ai envoyé un petit message en disant que j'étais très heureux de lire la réponse à ma demande sur le site de Radio-Canada. Mais de toute façon, ce que je veux dire par là, c'est que ils ont pris une entente, les gens, ce qui les a frustrés, c'est qu'ils ont pris un contrat avec la CEPAC pour 15 poissons. Là, ils se font dire, c'est plus 15, c'est 10. Puis, les gens s'attaquent à la CEPAC, mais comme j'ai dit dans mon texte, ce n'est pas la CEPAC, c'est le ministère. Le ministre, il a le droit de vie ou de mort. Il y a même quelqu'un, croyez-le ou non, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui a poussé ça très loin, qui est allé au consommateur, après ça, il est allé parler à un avocat, et l'avocat lui a dit, faites venir la loi pour prouver que c'est bien, que la CEPAC n'a rien à voir dans ça, là, parce que lui, il voulait avoir son argent. Et finalement, il m'a écrit dans le bas de son message, il dit, c'est vrai, que le ministre non, a le droit de vie ou de
c'est
mort.
C'est indépendant. Là. C'est, les quotas de poissons, c'est une autre affaire. La CEPAC organise des hébergements et tout ça, mais les droits de pêche, c'est une toute autre affaire indépendante. Maintenant, est-ce-tu vrai? Est-ce-tu vérifiable? Y a-tu un processus fiable d'évaluation des quantités de poissons pour faire un changement comme celui-là?
Ben, il y a j'ai vu des documents, là, j'ai regardé des tableaux. Il semblerait qu'il y a certains endroits où il y a une pression, tout ça. Mais écoutez, c'est parce que c'est subi, c'est ça. Et on me dit, bon, ben là, écoute, 1er avril, on présente ce qu'on fait, puis c'est tout. Mais le 1er avril, il y a des gens qui sont engagés et qui n'ont pas ce qui est prévu d'avoir. C'est ça qui est le problème.
10 mouchetés, c'est pas beaucoup, là.
Ben non, c'est pas une grosse limite. Puis les gens sont habitués dans la région d'avoir le 15 poissons. Ça fait que là, moi, j'ai même eu des gens qui m'ont écrit « Merci beaucoup, parce que je me serais fait prendre en infraction, parce que les gens vont pas aller. » Avant ça, on achetait un permis, puis ils nous donnaient un beau petit livre, si vous t'en souvenez, un beau petit livre de règlement de pêche, zone par zone, avec les modifications, ça. Là, ça n'existe plus, ça.
Faut aller sur Internet.
Ça, maintenant, sur Internet. Mais c'est pas tout le monde qui est habile, qui est prêt, qui a l'habitude d'aller sur Internet. Ils prennent pour acquis que tout le monde peut le faire. Oui, on peut le faire, mais c'est pas tout le monde qui va le faire. Fait que les agents cette année, j'espère qu'ils vont être compréhensifs parce qu'il y a nul doute. Puis là, on parle de la zone 27, on peut parler de la zone 1, on peut parler de la zone 2, il y en a partout.
Il y a d'autres changements ailleurs, là.
Ben oui, il y a des changements ailleurs. Ici, je regarde, quand dans la belle réponse qu'on m'a faite, on m'a donné un exemple. Dans la zone 1,
c'est où ça?
Modification de la période de pêche. La zone 1, c'est la Gaspésie.
La Gaspésie?
Modification de la modification de la période de pêche à toutes les espèces sauf le saumon. Ouverture à date fixe au 15 mai, fermeture à date fixe au 10 septembre. Boum! Limite de 2 prises quotidiennes, des 10 en tout, dont un maximum de 2 hommes chevaliers. Harmonisation des périodes de pêche, c'est-à-dire modification des limites du secteur de la rivière Matane, fermeture complète de la pêche à toutes les espèces dans la rivière Causabscale, entre le lac du Nord et le côté aval du lac. Tu sais, c'est
tout surveiller, ça. Faut surveiller ces affaires pas à peu près. Là. Je veux, là, bon, on a parlé de réglementation, en parlant de pêche un peu. Parce que là, écoute, moi, chez nous, mon lac où j'ai un chalet, là, le lac a calé plus qu'un mois plus de bonheur que d'habitude. Je dirais 35 jours plus de bonheur que d'habitude. L'eau, ben là, je présume que si la glace a coulé plus tôt, le soleil, l'eau doit être un peu plus chaude. Est-ce que les conditions de pêche de début de saison vont être différentes pour le doré, pour la truite?
Ben, les conditions vont certainement être différentes parce que le point que tu lèves, c'est ça. L'eau va réchauffer beaucoup plus vite que d'habitude à la date d'ouverture de la pêche. Donc, les premiers pêcheurs vont être assez chanceux. Mais après ça, là, la truite, elle va descendre à son 54 pour aller chercher sa température idéale, son thermoclime. Alors là, il va falloir la suivre. Donc, il y a des gens qui
plus profonde, plus dur à pêcher.
Ben, c'est qu'il faut aller la chercher. Il faut descendre les appâts à cette hauteur-là parce qu'elle s'en va. Elle va chercher sa nourriture, elle descend. Elle n'est pas dans le bord des rivières ou dans le bord des cours d'eau ou sur les pointes d'îles comme on fait souvent au printemps. Elle va être descendue dans ses fosses. Et ça, c'est pareil. Puis pour le doré, bien, en passant, c'est l'inverse. Les gens vont avoir des meilleures conditions parce que le doré va frayer plus tôt, donc il va rentrer plus vite dans les plans d'eau, puis comme dans le fleuve ou ailleurs. Puis là, il va être plus actif. C'est ça, tu sais, je veux dire. C'est un printemps qui permet d'ouvrir de façon, disons, plus agréable la saison de pêche, parce que souvent on va pêcher, ça prend quasiment son habit de motoneige parfois, tellement qu'il fait froid, dans la glace, dans l'eau. Là, il n'y a plus ça, là. Je parlais à des gens, d'ailleurs, ça va être ma chronique cette semaine, où les gens m'indiquent que les routes chez eux, d'habitude, ça va aller au 10, ça va aller au 15-20 mai. Là, c'est tout ouvert. Il y a des barrières de zec qui rouvrent, là, d'ici 2-3 jours. C'est 15 jours en avance. On n'a jamais vu des périodes comme ça prêtes aussi longtemps d'avance. Donc, les gens vont être heureux, mais il va falloir adapter sa technique de pêche, quelle que soit l'espèce, aux conditions qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on va être au mois de juin, puis on va dire qu'au mois de mai, là, quand on va aller au mois de mai, on va quasiment être rendu au mois de juin. Et souvent, il y a quelqu'un qui me disait, on est une lune en avance ou une lune en retard. Ça, moi, je connais pas assez ça, mais il y avait un bonhomme avec qui je pêchais souvent qui me disait ça. Mais là, écoute, là. Mais vraiment, c'est la chose la plus importante, c'est la température d'eau. Et c'est ça qu'il faut surveiller. Tu prends un petit thermomètre là, que tu as pour les maisons, là, tu le descends dans l'eau, tu peux voir la hauteur. Tu prends une petite corde, là, puis tu mesures ta corde, puis tu vois la hauteur, ce qui est la hauteur de la bonne température d'eau. C'est des trucs, mais il faut forcer, il faut s'éloigner un peu. Il faut aller dans le bord des fosses, un petit peu plus bas, elle va aller dans la fosse, elle va remonter à peu près au milieu du mur de la fosse pour un petit peu plus haut. Mais il faut jouer dans ces coins-là. Là. Alors qu'au printemps, dans des conditions habituelles, on pêche dans 4-5 pieds d'eau au bord du lac ou devant les entrées, les affluents des lacs, puis ça, puis le poisson est là, là, c'est ça.
Hmm. As-tu hâte de mettre une ligne à l'eau?
Ah, ça va venir, oui. Là, je viens de finir d'écrire un cahier de pêche qui va paraître le samedi 4 mai et dans le Journal de Québec et une partie dans le Journal de Montréal. Et après ça, le 5, je vais t'annoncer que je rentre à la pêche pour 3 jours et là, je vais me reposer puis profiter des bonnes conditions de pêche.
C'est drôle, je te crois. Hey, merci d'avoir été là, Julien Cabana, chroniqueur.
Je t'enverrai une photo. Je t'enverrai une photo du premier poisson que je vais sortir.
Je la retiens, salut.
Salut.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario.
Bonjour.
Nouvelle de dernière heure là, qui est tombée en plein milieu d'après-midi. Tragique nouvelle également. Un travailleur dans le port de Montréal qui a connu véritablement une fin atroce et tragique, Mario. Enfin, à 13h30 cet après-midi, on était là tout près du terminal Viau, donc qui est à l'angle là, des rues Notre-Dame-Est et Viau, qui est le dernier en liste là, des nouvelles installations du port de Montréal. Et là, on a un camionneur, un homme là qui serait décédé, écrasé. Ni plus ni moins, là, par un poids lourd. On dit que c'est sa tête qui aurait été écrasée. Une mort immédiate.
Ouais, les textes, c'est assez brutal. On dit aucune manœuvre de réanimation. La tête a été écrasée par une roue. Mort évidente. Tu dis, OK, c'est pas un bel accident. Elle avait à avoir vécu. On parle de soutien psychologique tout de suite aux gens qui ont assisté.
Ouais, absolument. Là, du côté là, des autorités du port, on va donner le soutien psychologique suivi pour les gens qui ont assisté à ça. Ce qu'on se comprend, là, des accidents de travail ou des accidents tout court, quand t'as pas de manœuvre de réanimation, c'est parce que
C'est laid, là, ouais, c'est ça.
Ouais, ça vaut vraiment pas la peine.
C'est sûr que dans ces cas-là, ils nous disent rien parce que la CNESST débarque, gèle toute la scène, demande à tout le monde de rien dire parce qu'ils veulent les interroger puis ils veulent pas que la preuve soit contaminée. Fait que ça finit toujours qu'on sait les circonstances de départ, mais après ça, plus rien.
Voilà, donc...
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Même l'âge de la personne qui a été, malheureusement, là, happée dans cette histoire-là, est pas précisé, donc on va falloir attendre les conclusions de l'enquête de la CNESST, mais vraiment, là, nouvelle frappante, tragique, là, aujourd'hui dans le port de Montréal. On poursuit maintenant avec des nouvelles du transport en commun, parce que c'est la saga de la semaine. Quand même, Mario, ce bras de fer qui a lieu entre les municipalités, entre la ministre Guilbeault aussi...
Je l'ai reçu ce matin à LCN longuement.
Elle et sa sacoche, Justelle?
Non, Justelle. Justelle n'a pas fouillé dans sa sacoche pendant l'entrevue, mais très de plaisanterie. Elle était quand même déterminée, claire, avec des bouts solides. Là. Quand elle dit « je ne ramasserai pas le déficit des municipalités, en fait, des sociétés de transport municipales », je la comprends très bien. D'autres bouts, bon, là, comment on va s'y prendre pour mettre en place des projets de transport en commun qui traînent, je dirais, là, c'est un petit peu plus... Ça se tient, ses réponses, mais c'est un peu plus inquiétant, dans le sens que, on va-tu en avoir des projets de transport en commun qui vont se réaliser un jour? Est-ce qu'on en veut vraiment? Mais, mon point, je l'écoutais, elle me donnait une entrevue vraiment solide, là, inébranlable, tu dis, OK, c'est parce que s'il y avait eu ce ton-là, cette semaine en commission parlementaire, il n'y a pas de controverse, là. Moi, je continue de penser que son ton nonchalant, désintéressé, là, son ton, ça me tente pas tant que ça d'être ici, est à la base de tout le problème. Là, parce que sinon, elle n'a rien dit de nouveau. Bon, elle a dit, là, le transport en commun, c'est pas notre responsabilité, mais dans le fond, quand elle s'explique, ben, elle l'explique bien, là, que c'est pas, elle veut pas ramasser le déficit des sociétés de transport. Mais je pense que le ton et l'attitude ont été au cœur de son problème. Mais donc, là, l'opposition, il va de suggestions.
Oui, c'est des suggestions, puis quand on parle de l'opposition, c'est Québec solidaire, puis le Parti québécois, d'ailleurs, Québec solidaire, qui sont venus faire leur conférence de presse juste en face de nos studios, Mario.
Ben oui, j'ai vu la photo dans le journal, j'ai dit, ben là, ça, c'est devant Cube, là.
Ben voilà, justement, alors, on avait nos visages ben, curieux
on est au cœur du réseau de métro de Montréal, là, la station centrale du réseau Sébéry-UQAM, ben l'autre bord de la rue.
Là. Tous les chemins mène Tabéry-UQAM, Mario, ça c'est bien vrai. Et là, ben, la conférence portait justement sur cette nouvelle solution qu'avance Gabriel Nadeau-Dubois, le porte-parole de Québec solidaire, pour pallier à ce manque à gagner des transports en commun. aller piger dans le fonds vert. Parce que on parle d'à peu près une somme d'1,7 milliard de dollars, là, qui est dans le fonds d'électrification et de changement climatique. C'est le nouveau nom du fonds vert. Et là, ben, on veut aller piocher cet argent-là pour être capable d'éponger au moins là, le déficit de 2025 qui s'en vient. En attendant, dit Gabriel Nadeau-Dubois, trouver une solution à plus long terme là, pour le financement des transports en commun. Là. Ce serait comme un plaster, si on veut, là, en attendant pour être capable de gérer tout ça.
C'est une demi-bonne idée. C'est pas fou, là. Le fonds vert sert à ça. Le transport en commun, c'est certainement une mesure verte. C'est juste que... En fait, je dirais, quand tu te mets à dire qu'il faudrait aller piger dans le transport en, dans le fonds vert pour le transport en commun, ça ferait prendre conscience d'à quel point ça coûte cher, le transport en commun. Parce que quand on dit 1,5 milliard dans le fonds vert, on dit, hey, c'est énorme. Ça a pas de... Il y a même des gens qui ont reproché au gouvernement, ça n'a pas de bon sens que tant d'argent s'est accumulé. Mais... Je veux dire, si tu disais on utilise le fonds vert pour le transport en commun, tu le viderais. Tu pourrais le vider en un an ou deux, là.
Ben, facilement. 1,7 milliard, Mario, pour des projets de transport en commun, ça va vite.
C'est du change, c'est ça. C'est ça, c'est parce que à court terme, tu pourrais éteindre le feu du déficit de cette année, mais là, t'es pas plus avant. Un, t'aurais vidé, t'aurais comme sérieusement amoché le fonds vert, puis t'aurais pas vraiment réglé de problème à moyen et à long terme. Là.
Non, c'est ça. Puis c'est vraiment avoué.
Mais ils l'ont avoué. Là, c'est une solution de court terme. C'est un plaster pour cette année, pour l'année prochaine. Mais oui et non. Là,
de manière, ça va falloir
trouver des vraies solutions à terme pour financer le transport en commun.
Oui, puis ça n'a pas l'air de plaire de toute manière pour l'instant à Geneviève Guilbeault, justement, là, qui rétorquait à cette idée-là aujourd'hui, qu'elle voulait attendre.
C'était pas l'esprit du fonds vert. L'esprit du fonds vert, c'était vraiment de l'innovation, là, de financer des nouvelles initiatives, des nouvelles technologies, des nouveaux procédés, des nouvelles façons de faire qui réduisent là, directement les gaz à effet de serre. Alors que, oui, le transport en commun aide à réduire les véhicules sur la route, mais je veux dire, si tu finances le même transport en commun qui se faisait l'année passée, t'as pas de réduction des GES, là.
Non.
Aucune. T'as juste...
Y a pas de gain net, là,
non, y a pas de gain net. Tu refais... Bon, c'est sûr que si tu dis... L'alternative, ça serait d'enlever des services de transport en commun puis de forcer des gens à reprendre leur véhicule, peut-être.
Oui, absolument. Et là, ben, on a aussi les Audi qui se tiennent là, du côté des organismes publics de transport en commun. Là, et on veut avoir, justement, là, attendre la fin complètement de ces Audi-là pour être capable de voir comment ça se fait là, dans les organismes. Madame Guilbeault, on se comprend, elle veut pas donner un chèque en blanc tant qu'elle comprend pas toute la mécanique interne des organismes de transport.
Les Audi, là, si les Audi sont efficaces, les Audi devraient nous amener des solutions en matière de transport en commun moins coûteux. Là. Donc, est-ce que les Audi pourraient avoir le courage de dire, ben là, les salaires sont en haut des moyennes, il y a trop de bureaucratie, ou est-ce que... J'ai hâte de voir jusqu'où les Audi... Parce que c'est ça, là, c'est vraiment une évaluation de la gestion. Alors, est-ce qu'ils vont être... parce que ça, une évaluation de la gestion, tu peux être doux, tu peux être plus corsé, là, à dire, est-ce qu'on va nommer les vraies choses, qu'est-ce qui coûte trop cher? J'ai hâte de les voir.
Actualité.
Parlant de coûter trop cher, Mario, on n'avait pas tout eu la facture sur le toit du stade, finalement. C'est nos collègues du bureau d'enquête de Québecor qui se sont penchés sur les 490 pages là, du contrat qui a été alloué pour être capable de faire la réfection du fameux l'anneau technique du stade, là, ce qu'on veut installer pour remplacer l'actuelle toile qui fait la toiture de notre stade montréalais. Mais là, c'est parce que 870 millions de dollars, la facture pour tout ça, ben c'est parce que c'est juste l'anneau, finalement. Là, vous allez me dire, juste l'anneau, et il y a quoi d'autre? Ben, beaucoup d'autres choses, finalement. Beaucoup d'autres choses qui doivent être installées
surtout
avec un anneau comme ça.
Surtout électricité et ventilation, là, qui sont les deux gros postes qui sont pas inclus.
Ouais, parce que là, ça prend un équipement pour être capable de ventiler le stade comme il faut. S'il y a des dégagements de fumée, par exemple, faut être capable d'évacuer tout ça. Là. C'est dans le code du bâtiment. Tu peux pas avoir un stade sans ça. Après ça, l'électricité qui passe là-dedans, mais l'éclairage aussi. C'est parce qu'il faut l'éclairer, ce stade-là. Il faut que les gens à l'intérieur mais soient capables de voir quelque chose. Puis là, ensuite, les haut-parleurs, parce qu'on veut recevoir des spectacles grandis. Un jour, Taylor Swift a été évoqué. Ben, c'est parce que ça va prendre de l'éclairage. Puis là, ben, c'est ce qu'on réalise en ce moment. Ça va coûter pas mal plus cher que tout ça. Là. En date du 12 mars dernier, par exemple, pour la ventilation, c'est quand même 91,6 millions de dollars que ça risque de coûter. L'électricité, à peu près la même chose. Là. Et là, ben, les équipements scénographiques aussi, là, tout ce qui est équipement de levage, parce que pour la scène, tu peux pas le monter à main, ça prend des espèces de grues ou d'équipements pour les monter, c'est un 20 millions à peu près chacun de ce côté-là. Et là, il y a toutes sortes d'autres petits travaux aussi annexes qu'on veut faire du côté de la gestion du parc olympique. On veut, par exemple, reconfigurer des gradins. C'est pas clair dans le texte exactement.
Mais ça, par contre, ce matin, moi, j'ai parlé avec Michel Labrec. Les gradins, il faut vraiment mettre ça à part. C'est un autre projet. C'est pas urgent. C'est dans la... Oui, c'est dans les cartons. C'est quelque chose un jour qu'il faudra faire. Mais...
Parce qu'ils sont vieillots, quand même.
Oui, c'est ça. Mais on peut pas inclure ça là-dedans. Là. C'est pas dans le projet actuel. C'est pas urgent. C'est pas prioritaire. Le reste, parce que ça fait partie de l'anneau. Maintenant, l'explication de... Non, ils disent que c'était pas caché, là. C'était dans les documents, puis ça n'a jamais été dit. Puis ils disent, ouais, mais ça, c'est parce que c'est comme de l'entretien régulier, là. C'est parce qu'ils disent, à chaque année, le gouvernement amène 40 à 50 millions tous les ans dans un entretien régulier du stade. Fait qu'ils disent, là, ça, l'électricité, puis ça, ça fait comme, sa prétention, c'est que ça fait pas partie des travaux spéciaux, là, de faire un toit. Mais que ça va comme, pour ces années-là, ça va être ça qui va passer comme étant de l'entretien régulier, là, l'électricité de l'anneau. Bon.
Je comprends
ce qu'il dit, mais je pense que pour le commun des mortels, on aurait le goût de dire, ben là, dis-nous-le au complet, là, ce que ça va coûter l'anneau. Il y en a d'autres qui disent, ben là, politiquement, c'était une façon de pas trop s'approcher du chiffre épeurant du fameux 1 milliard, le seuil psychologique du 1 milliard, parce qu'on était à 870 millions. Fait que là, si on additionne ces éléments-là, on est rendu à 900, quasiment à presque 1 milliard, donc qu'on aurait arrondi à 1 milliard.
Mais moi, Mario, j'ai une question, parce que c'est une réflexion qui me vient quand je vois des projets comme celui-là, quand on parle du transport en commun, quand on parle du prix du pont de l'île d'Orléans. Est-ce que c'est réaliste maintenant d'essayer de concevoir des projets d'infrastructure en bas du milliard? Pour vrai?
Non, mais ça coûte cher. Les coûts de construction ont augmenté à un point. C'est sûr qu'on se pose des questions. Est-ce que les modes... Parce que il s'est passé quelque chose. Puis d'ailleurs, le gouvernement veut réformer ça. On dit là, d'ici 2-3 ans, on va changer la façon de faire des projets. Parce que c'est un peu à cause de l'opinion publique puis des médias. Parce qu'il y a eu des dépassements de coûts à plusieurs reprises. Parce que l'histoire est connue. Et donc là, les gouvernements se sont dit, moi, je veux plus de dépassement de coûts. Je veux plus annoncer un projet qui coûte 400 millions. Finalement, il en coûte 450. Parce que là, le monde, mais ça se ramasse à la une du journal, puis le monde est en maudit pendant 6 mois.
Oui.
Donc, je vais dire à l'entrepreneur, là, mets-toi toutes les contingences. C'est-à-dire, mets-toi là, toutes les barrières
les plans de sécurité.
Les plans de sécurité pour que toutes les imprévus... Fait que l'entrepreneur, il va te dire, ben OK, ton projet de 400 millions, moi, t'as le chargé à 500 millions. Mais il n'y aura pas de dépassement de coût. Fait que je reviens à mon projet. Fait que dans le fond, le projet que je décrivais tantôt, à 450, tu dis, OK, il a coûté 400. Il n'a pas coûté 400, mais je veux dire, il a été... budgété annoncé à 400, il a coûté 450, j'ai eu un dépassement de coût de 50 millions, je suis choqué. Mais si l'entrepreneur te le fait à 500...
Il t'annonce 500,
puis il te le livre à 500, tu te dis, oh là, je suis content. Mais dans le fond, il a rien coûté 450 quand même, il s'est ramassé 50 millions de profit parce que il y a la moitié de son buffer, en mauvais québécois, ouais. Là, de sa marge de manœuvre de sécurité qui s'est gardée, la moitié qu'il n'a pas utilisé, il le met dans ses profits. Mais toi, tu te dis, hey, moi, comme contribuable, je suis content, il n'y a pas eu de dépassement de coût.
Ouais.
Fait que c'est là qu'il faut trouver le juste milieu de dire, ben, garde, on va s'entendre sur un prix, puis s'il y a des dépassements de coût, on est peut-être mieux comme contribuable ou comme gouvernement de dire, ben, on va l'assumer, là, tu sais, on te donnera pas.
Un espèce de chèque en blanc.
Ben, une marge de profit de sécurité de fou. Parce que l'entreprise, les chiffres sont tellement gros, l'entreprise, dis-moi, si je fais 50 millions de trous, là. Puis quasiment me mettre en faillite. Le chiffre est tellement gros, là. Mettons que j'ouvre le toit du stade, il se met à avoir des surprises, l'eau s'est infiltrée, puis tout ça. Moi, je mets ma business en faillite. Donc là, quand tu mets les entreprises avec un gun sur la tempe, un fusil sur la tempe, de dire, hey, pas de dépassement, aucune considération. Mais l'entreprise, là, elle va dire à ses ingénieurs, puis à ses architectes, puis à ceux qui font les plans, regarde, là, mets-toi, là, des sécurités. Puis 10 % de plus, puis 20 % de plus, puis quand je vais arriver à la dernière étape, je vais me rajouter un 25 % de plus, parce que... Fait que, en gros, il va falloir qu'on repense la gestion du risque, parce que la peur des dépassements de coûts nous a mis dans une position où on force les entreprises, puis là, les entreprises, tu peux bien dire, c'est des voleurs, ils nous volent, c'est facile à dire, mais moi, si j'étais un PDG d'entreprise, je dirais, attends un petit peu, là, je fais un pont, je fais un stade, je fais une affaire gigantesque où il y a mille...
Ben, c'est complexe, là.
On rénove notre salle de bain, là, puis en démanchant la laine minérale, là, on se rend compte d'une merde, c'est pourri, ça te coûte 10 000 piastres de plus. Fait qu'imagine un pont, imagine un stade. Donc, il y a un point où ce n'est plus avantageux. Ce n'est pas avantageux, ce n'est plus de dire à l'entrepreneur, et je veux pas de dépassement de coût, t'es mieux de dire à l'entrepreneur, regarde, fais-moi un prix raisonnable. Puis là, ben, quand on va démancher l'anneau, s'il y a eu une infiltration d'eau, puis on a une mauvaise surprise, on va la constater ensemble. Puis il y aura un dépassement de coût, puis on l'expliquera au peuple. Mais moi, comme contribuable, je ne veux plus payer cette sécurité-là. Mais là, c'est parce que tu dis, OK, je comprends, là, pour pas que le Journal de Montréal te fasse une dépassement de coût, tu vas donner à l'entrepreneur 100 millions de plus de marge de sécurité. On a comme viré débile, là. Tu comprends-tu? Il y a comme un point où... Fait que là, il faut qu'on retrouve le juste milieu. De dire, regarde, un prix raisonnable, les dépassements de coûts, c'est un... À la limite, qu'on invente un nouveau mot dans notre vocabulaire, qu'on dise aux contribuables, regarde...
Ça, c'est la marge de manœuvre.
C'est un projet de 400 millions, puis on se met 200 millions en risque, là. Puis là, ben, on espère pas l'utiliser, mais là, c'est parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on le donne à l'entrepreneur. Présentement, on se dit, ben là, regarde, moi, je veux pas... Je veux que tu me donnes un prix, là, béton, que t'arrives. Fait que l'entrepreneur, il dit, ah, m'a te le donné, ton prix béton, mais moi, m'a mettre toutes les marges de manœuvre, puis si jamais le projet va bien, puis qu'on n'a pas tous ces malheurs-là, nous arrivent pas, ben, on le passera dans nos profits. Pas mieux, là. Pas mieux, là, pour satisfaire l'opinion publique.
Nouvelle de dernière heure aussi, Mario. Nouvelle montréalaise qui est assez étonnante. Merci. Il y a des dizaines de personnes qui ont été évacuées.
Ouais, mais c'est ça. C'est la nouvelle qui tourne depuis quelques minutes. Là. Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, qui ont été évacuées du quartier Rosemont, tout près de la rue d'Orléans, à côté du boulevard Saint-Joseph. Parce qu'on dit qu'il y a un colis qui a été découvert juste devant un dépanneur du quartier. Colis qui traînait depuis au moins 3 jours, selon certains témoins. Et là, on ouvre ça. Des bâtons de dynamite.
Ben voyons. Mario.
Un collier rempli de bâtons de dynamite. Et là, ben, les policiers sont allés évacuer.
En plein Montréal, en plein quartier Rosemont, résidentiel, habité.
Devant un dépanneur, puis là, il y a le propriétaire du dépanneur qui comprend pas, qui dit, ça n'a pas rapport avec mon commerce. Qu'est-ce que ça fait devant chez nous? Mais il a fallu quand même évacuer tout le monde.
Ouais. Et là. C'est pas des popsicles pour son frigidaire de commerce, là.
Ben, surtout que c'est une dame qui a découvert ça. Elle a vu le colis qui traînait, ça fait longtemps qu'il traîne, ouvert le colis, bam, bâton de dynamite. On n'imagine pas,
mais
le
ça tue. Est-ce que c'est criminel? Est-ce imaginable que ça peut être oublié de bonne foi par un entrepreneur en travaux qui travaille, je sais pas, sur le REM ou un tunnel ou le métro, la ligne bleue du métro ou je sais pas?
Honnêtement, j'ai.
Personne ne sait.
Ben, pour l'instant, personne ne sait. Là, heureusement, les artificiers de la police de Montréal se sont rendus sur place, ont utilisé un robot, ont neutralisé le collier. Donc, tout est beau. Il n'y a rien qui a sauté dans le quartier Rosemont. Mais comme. Tu sais, moi, j'imagine pas la face, tu sais, du postier de Poste Canada. Qui le sait, là, il est allé livrer un colis il y a 3 jours devant le dépanneur. Puis il voit ça à la télé, puis il fait
« Ah! » Les artificiers de la police, c'est pas le genre de personne nerveuse que t'arrives derrière lui, tu fais boue, puis il fait le saut. Là. C'est plutôt des personnes qui ont un certain calme.
Voilà, eux sont moins stressés.
J'en avais connu un qui était devenu garde du corps. Je l'avais connu quand j'étais chef de l'opposition, puis tout ça, puis il comptait sa vie d'avant, là. C'est fou parce que, un, quand t'es artificier, tu travailles pas si souvent que ça. Là, tu sors pas tous les jours. Fait que leur temps libre, ils les passent sans niaiser là, à étudier des bombes. Ils vont dire, ouais, on a appris que la Russie a une nouvelle façon de brancher, un nouveau matériau, un nouveau mélange d'explosifs, ils mettent ci avec ça.
Et ils se gardent au goût du jour.
Là. Ouais, et avec les corps policiers du monde entier, là, ils vont apprendre, mettons, que les policiers, je sais pas moi, de la Thaïlande ont défait une méchante bombe. Là, ils vont aller étudier comment ils s'y sont pris, ils ont dû ramper dans un endroit, OK, puis ils ont fait ça, parce que là, fallait s'ils débranchaient tel fil, ils allaient tout faire péter. Pis... Fait qu'ils passent beaucoup, beaucoup de temps, parce que la force, c'est leur compétence, l'autre, ils sont appelés souvent. Mais quand ils sont appelés, c'est comme assez important qu'ils foirent pas, là, tu sais, parce qu'ils peuvent tuer du monde, faire sauter des buildings, n'importe quoi. Fait qu'ils passent une grosse partie de leur temps à s'entraîner et à étudier pour que quand ils sont appelés, mais c'est, oui, on parle de gens qui ont un bon sang-froid.
Oui, absolument, bon
parce
sang-froid.
Parce qu'eux doivent s'approcher, à ce temps-là, des fois, ils ont des petits robots, mais, tu sais, je veux dire, tes appels, dis-moi, sur cela, on a trouvé une bombe. Ah, bon, on va aller voir ça.
De la dynamite
tout
dans
le monde,
Rosemont.
C'est tout le monde s'éloigne. Dit, ben là, nous autres, on va aller voir ça.
C'est nous qui s'approchons de l'engin de mort.
C'est ça le métier.
On enchaîne également avec Nouvelle économique. On a eu cette annonce aujourd'hui dans le coin de Bromont de Justin Trudeau qui était sur place avec François-Philippe Champagne. Il y avait également le ministre de l'économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, qui était sur place pour une annonce puis tout un investissement quand même qui est mis dans une industrie de pointe, Mario. Là. Vraiment, là, ce dont tout le monde
s'arrache. Il y a un type que je suis là, d'économie américaine à Wall Street. Il appelle les semi-conducteurs. Il dit « it's the new oil ». C'est le nouveau pétrole. En d'autres termes, il y a une époque, si tu remontes dans les années 50-60, c'est le pétrole, c'était la matière première là, des industries, des transports qui faisaient marcher l'économie. Mais tu sais, maintenant, c'est vraiment les semi-conducteurs. Pourquoi? Ben, c'est les microchips là, qu'on met dans
tout
ce qui est électronique. Puis à une époque, ben, on disait les microchips, ils vont dans les ordinateurs.
Oui.
Sauf que maintenant, là,
ordinateur, c'est tout.
J'ai changé ma laveuse sécheuse cet automne à la maison avec ma blonde. C'est plein de micros. À cette heure, sont branchables, connectables. On peut partir de la laveuse avec notre sel. Il y a un sensor pour est-ce que le linge est sec ou pas. Il y a des détecteurs de tout. Fait que tout ça, toute cette électronique-là, chaque bouton, c'est plein. Une automobile, maintenant, on parle, c'est des centaines de milliers de semi-conducteurs, donc de petites puces. Là, qui...
Pour une seule auto, là, c'est pas pour rien que les caméras de recul que vous avez sur votre auto, les capteurs sur les côtés pour détecter que quelque chose approche.
Tous les systèmes de détection de la chaleur de partout dans ton véhicule. Puis là, avec les véhicules électriques, on nous dit, ouais, là, il y en a genre... 4 fois plus.
Et c'est pas pour rien là, que pendant un certain moment, après la pandémie particulièrement, c'était absolument là, infernal de commander un véhicule, là, le temps d'attente.
C'était
là.
Les microchips, c'était les semi-conducteurs qui manquaient.
C'était les semi-conducteurs
qui
manquaient.
Et donc, au Québec, on n'est pas un champion de ça, mais on a un endroit, on a une ville, là, Bromont, où il y a l'usine d'IBM, puis il y a une spécialité technologique, là, quand même une certaine expertise autour de ça.
Ouais, c'est ce qu'on appelle le Centre de collaboration micro-innovation C2MI, qui se trouve à Bromont, donc qui est en collaboration avec IBM, justement, le géant de l'industrie technologique. Et là, ben, c'est à cet endroit qu'on va financer un projet de 227 millions de technologies quantiques. Là. Et là... Québec injecte 39 millions de dollars là-dessus, 60 millions de dollars qui sont injectés par Justin Trudeau dans le projet pour à peu près 100 millions de dollars pour fabriquer justement encore plus de micropuces dans ce coin-là. Puis ça suit au tac, Mario, l'annonce du côté de M. Biden qui a investi... Là,
je pense que le montant est un petit peu plus gros.
Ouais, 8,3 milliards du côté américain. Du président Joe Biden, américain bien entendu. Puis déjà, là, il y a le chip Act, qui est cette nouvelle...
Parce que ce que j'ai pas dit dans mon affaire tantôt, c'est que c'est devenu tellement stratégique dans le militaire. Si tu veux avoir le drone le plus fou, là, t'sais, qui est capable de détecter, tirer, viser, mais faut que tu aies les meilleurs micropuces dedans.
Ben oui.
Puis là, on les vend plus à la Chine, on les vend plus à la Russie. Il y a un boycott, donc une certaine qualité, là, les dernières technologies dans la micropuce. On les partage plus, là. Les Américains les vendent plus, veulent en produire davantage, puis veulent contrôler le marché parce qu'ils s'en produisent en Chine.
Oui.
Puis, un des plus gros producteurs au monde, c'est Taïwan.
Oui. Et Taïwan, on se comprend, c'est une île qui est dans une situation géopolitique absolument stressante.
Qui est un pays indépendant que la Chine considère faisant partie de la Chine. Historiquement, mais ils sont toujours sur le bord de t'as toujours peur qu'il y ait une guerre qui débarque pour aller chercher Taïwan.
Ouais, puis c'est une crainte là depuis entre autres que la Russie décidé d'envahir l'Ukraine, qu'on tente de faire la même chose utilisant cette diversion là du côté de la Chine pour aller reprendre Taïwan là, qui est défendu quand même c'est des intérêts américains qui sont là. Donc c'est toute une annonce qui est faite puis les États-Unis, c'est pas compliqué là, le Chip Act. C'est 55 milliards de dollars qui est injecté pour ramener justement la production de puces du côté des États-Unis. Quand même rassurant de savoir qu'on va commencer, qu'on va continuer à en faire là, de plus en plus ici au Québec. Donc, nouveau centre d'innovation de ce côté-là.
D'ailleurs, il y avait eu quelque chose là-dessus. Quand le président Biden est venu au mois de mars de l'année passée, là, ils avaient parlé de l'axe Albany-Bromont, quelque chose comme ça, là, comme étant un axe qui va pouvoir devenir un lieu important dans la production des micropuces.
En terminant, Mario, ben c'est une bonne nouvelle du côté du palais de Buckingham. Le roi Charles III qui se porte mieux. Je rappelle quand même qu'il y avait eu des mauvaises nouvelles à son égard. Là, en début février, on avait annoncé qu'à la suite là d'une opération pour soigner un problème de prostate, on s'était rendu compte qu'il y avait un cancer. Bon, on n'a jamais précisé de quel cancer il s'agissait. Est-ce que c'était relié à la prostate ou à autre chose? Jamais ça a été précisé. Mais là, on dit que dès la semaine prochaine, il va commencer à reprendre des activités publiques. Les médecins trouvent que c'est très encourageant la manière dont il se remet. Va continuer à suivre des traitements, mais va continuer à pouvoir prendre là, des bains de foule puis vaquer à diverses occupations. Donc, bon repos, bon rétablissement au roi Charles III, Mario.
Donc, s'il reprend des activités, ça veut dire qu'il va pouvoir commencer à surveiller ce qui se passe. Je commençais à trouver que c'était un petit peu... C'était quinquant, la gestion au Canada.
Ouais, exact. Là, il surveillait pas ça depuis un bout. Là.
Non, on dirait qu'on l'a senti que le roi avait plus l'œil là, sur la gestion. M. Trudeau était laissé à lui-même. Là, c'est, moi, c'est...
Ça m'inquiète toujours dans ce temps-là, Marie.
Ouais. On va se fier sur notre bon roi. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
Le problème n'est pas là.
Francis Gosselin.
Ça sonne comme une arnaque.
J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
Mario Dumont.
Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
La rencontre. Gosselin. Dumont.
Bonjour Francis.
Salut Mario.
C'est des chiffres de l'Institut de la statistique du Québec qui démontrent que ce rattrapage tant espéré par M. Legault là, du revenu moyen, du revenu disponible du Québec sur le reste du Canada est en train de s'opérer. En fait, je t'en parle parce que tu sais que t'as parlé de ça hier. Moi, ouais. J'ai écrit là-dessus pour le journal de demain.
OK.
Puis, ce qui me frappe, c'est que le rattrapage, il se fait entre autres parce que ça va mal en tabarouette.
Au Canada.
Dans certaines parties du Canada, ça n'a pas de bon sens, là.
Oui, effectivement, Mario. Ben, tu sais, pour rappeler un peu les chiffres qui ont été publiés hier, c'est des chiffres de 2022, là. Tu sais, c'est sûr que c'est grosse compilation.
Ouais, mais tu sais,
on parle de tous les revenus, de tous les transferts, de tous les impôts payés par tous les Québécois, tous les Canadiens. Donc, ultimement, là, ça prend du temps. Donc, là, c'est 2022, mais c'est la troisième année consécutive qu'on était sur une pente ascendante au Québec, là. Donc, c'est ultimement des bonnes nouvelles.
On s'enrichit. On a plus d'argent libre.
Exactement. Puis là, c'est vraiment le revenu disponible. C'est à la fin, là, c'est combien il te reste dans tes poches. Là. Fait que c'est pas, tu sais, on dit des fois le revenu brut et tout, mais là, ça dépend du taux d'imposition, puis tu mets-tu des réels. Là, c'est vraiment combien il y a d'argent qui reste dans les poches des gens, et ça augmente. J'étais au bilan hier soir, comme tu dis, puis là, évidemment, Emmanuel Latraverse me challengeait, c'est pas l'impression qu'on a actuellement au Québec qu'on s'enrichit. Puis la réponse est assez simple, Mario. Tu sais, c'est le prix de beaucoup de choses de base a beaucoup augmenté ces dernières années. On parle de l'énergie, le pétrole notamment, l'épicerie, etc. Puis nos salaires ont aussi augmenté, mais dans notre tête, là, on ne fait pas nécessairement cette arithmétique-là facilement. Et donc, tu sais, même si les statistiques le disent, notre...
Mais c'est-à-dire qu'on va plus donner un coup de pied dans la poubelle quand on voit le beurre à tel prix.
Ben, c'est ça.
Quand on voit son talon de paye, puis qu'il y en a un peu plus.
Que le 18$ sur ton talon de paye, mais ultimement, si tu le traduis en livre de beurre, tu comprends, tu peux acheter 1,8% plus de livre de beurre. Tu sais, je charrie un petit peu, mais c'est la réalité. Comme tu l'as dit, c'est intéressant aussi, c'est que dans le reste du Canada, ça va beaucoup moins bien.
Parce que c'est même pas 0% d'augmentation.
Non, c'est une baisse.
Négatif.
Oui, tout à fait. Bon, il y a deux affaires qu'il faut dire. Le Québec, comme tu l'as dit, est en rattrapage. Donc, on était à 36 000 et quelques. Là, je pense que c'est à 36 600 là, de revenus nets disponibles par habitant. Le Canada était à 39. Donc, tu sais, il était quand même... C'est pas des grosses différences, mais tu sais, pour tous les millions de Canadiens...
Il y a quelques années, c'était un écart de 5 000.
Ben, c'est ça.
Là,
donc,
il est rendu à 2.
Ben là, il est à 38,8 au Canada. Donc là, effectivement, on se rapproche là, les uns des autres. Il y a quand même un facteur explicatif, là, puis j'en parlais hier, c'est que c'est une division. Hein, c'est arithmétique, là, tu sais, fait qu'il y a pas de sentiment, c'est des pauvres chiffres. Puis évidemment, on a beau se plaindre au Québec de l'immigration, on a une petite proportion de l'immigration totale canadienne. Et donc, c'est sûr qu'au Canada anglais, si tu regardes, tu sais, les 800 ou 900 000 nouveaux arrivants dans la dernière année et demie, deux dernières années, ben la division, elle donne l'illusion, mais c'est pas une illusion, là, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui gagnent rien, effectivement. Et Luc Lavoie en parlait hier en réaction, mais tu sais, c'est sûr que ces gens-là, après un mois, trois mois, six mois, un an, 18 mois, ben tôt ou tard, ils finissent par se placer dans l'économie, ils finissent par créer de la valeur ou pas, là, mais c'est ça, tu sais, c'est tout ça.
En fait, c'est qu'est-ce qu'ils en créent? Est-ce qu'ils vont gagner plus que le revenu moyen et créer un enrichissement? Moi, je pense que ceux qui ont un bon diplôme, puis tout ça, la réponse, c'est oui. Mais ceux que tu fais venir comme du cheap labor, ils risquent d'appauvrir le pays.
Mais sans vouloir t'obstiner sur juste des effets de moyenne, Mario, c'est sûr que le jour 1 où le chiffre, c'est zéro, même si la personne, elle arrive en bas de la moyenne, c'est que l'immigrant, il arrive à 35 000 à la fin, le passage de zéro à 35 000, tu comprends qu'il va faire remonter toute la moyenne aussi. Là. Donc, il y a cet effet-là qu'actuellement, dans les premiers mois, les immigrants, typiquement, ne sont aucunement productif, puis on les excuse. C'est juste justement la question de savoir est-ce qu'on arrive à les intégrer dans l'économie canadienne, québécoise. Puis pour le reste, ben, en tout cas, c'est un indicateur pour moi qui est réjouissant dans une certaine mesure. T'sais, on a parfois le sentiment de s'appauvrir, mais dans les faits, les chiffres révèlent que pour la troisième année consécutive, c'est pas le cas.
Tu nous dis, on n'a pas naturellement le réflexe de l'innovation au Québec.
Pas moi qui dis ça, c'est Pierre Fitzgibbon. Bon, il est toujours le sens de la formule, notre ministre de l'économie et de l'innovation, doit-on le rappeler.
Et un certain franc-parler quand même, auquel on n'est pas habitué en politique.
Non, effectivement. Puis tu sais, j'ai l'impression, parfois, tu l'as écrit, là, M. Fitzgibbon, sûrement, se réfléchit à son avenir, on va dire ça comme ça. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui a rien à perdre, ultimement. Il est là, je pense, pour les bonnes raisons. Là. En tout cas, tu sais, il veut vraiment faire progresser l'économie.
Mais il n'est pas là pour la paye de député.
Il n'est pas là pour la paye de député. Et donc, c'est intéressant parce que, bon, il dit ça, comme tu dis, c'est son franc-parler, ça se veut un peu provocateur. Le Québec, évidemment, reste moins productif que le reste du Canada, puis ça se traduit là, dans notre autre conversation. Ouais. Ça veut dire on est moins aussi riche par heure travaillée, par habitant. Là où, bon, le bas blesse un petit peu, il dit on n'a pas le réflexe de l'innovation. Puis là, c'est sûr qu'on rentre un petit peu dans un jugement de valeur, là, tu sais, puis ultimement, l'innovation, bon, c'est quoi l'innovation, comment qu'on mesure ça, etc. Moi, tu sais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, Mario, comme tu le sais. Le Québec, on va se le dire, puis tu sais, pas mal tout le monde serait d'accord si on sondait l'Amérique du Nord. Le Québec, c'est une terre de créativité. Tu sais, on a les cirques du soleil, puis les jeux vidéo, puis la culture est très forte ici. On est bon pour avoir des idées, puis là où je rejoins M. Fitzgibbon, c'est qu'on est peut-être un peu moins bon pour prendre ces idées-là puis faire du cash avec. Et c'est ça qu'on appelle l'innovation. Tu sais, des idées, tout le monde peut en avoir, entre guillemets, mais de prendre ça puis de transformer ça en une source de valeur, une source d'emploi, une source de profitabilité, c'est là où on est un peu moins bon. Puis c'est pas de dire qu'on le fait pas. Il y a plein de belles PME au Québec, mais effectivement, on est un peu moins bon. Par contre, ça m'a un peu fait sourire, Mario, parce que tu sais, on a parlé de l'imposition du gain en capital ces derniers temps qui va être hyper pénalisant pour les entrepreneurs et les innovateurs du Québec. Je trouve ça un petit peu drôle que le ministre, en fait, avec son collègue Éric Girard, nous assène des impôts sur l'innovation d'un bord, puis vienne nous dire trois jours après qu'on n'est pas bon en innovation. T'sais, entre nous, si tu veux stimuler l'innovation, tu peux aussi donner des incitatifs fiscaux, économiques de différentes natures, ce que la CAQ, paradoxalement, comme gouvernement d'entrepreneurs, a pas été très bonne à faire. Tu sais, autant je me réjouis des Northvolt puis des Ford, etc., tu sais, de garrocher des milliards et des milliards à des grosses multinationales, pour moi, c'est pas de l'innovation.
On n'a pas eu, la CAQ a pas mis en place un super programme ou une super initiative pour les petites pousses, là, tu sais.
Il y en a plein de ça, mais effectivement, c'est pas pour ça qu'on les reconnaît, puis on dirait que dans le discours, ça vient un peu tard de M. Fitzgibbon de dire il y a pas d'innovation. C'est pas comme si ça avait été le fer de lance, là, de son ministère depuis le début. Tu sais, au Québec, on a quand même un innovateur en chef, là, Luc Sirois. Tu sais, il y a un paquet de mesures, des programmes d'aide. Mais je trouve juste que c'est soit peu cohérent ou en tout cas très mal communiqué de la part de Québec. Et donc, encore une fois, à deux jours là, d'une imposition additionnelle sur l'innovation, de venir nous faire dire qu'on innove pas assez. Tu sais.
Aux États-Unis, parmi les entreprises cotées en bourse, évidemment, qui ont un devoir légal de présenter leurs résultats à chaque trimestre, à chaque trois mois, c'était une grosse, grosse, grosse semaine parce qu'il y a trois des plus grandes entreprises, là, Meta, donc Facebook, Google et Microsoft qui présentaient leurs résultats. Puis souvent, on dit, T'sais, ces géants-là sont ceux qui donnent le signal, est-ce que l'économie, le marché va bien ou mal?
Oui, ben effectivement. Donc, tu sais, Meta, là, donc l'entreprise derrière notamment Facebook, Instagram et WhatsApp, a annoncé de très bons résultats là, cette semaine, en nette augmentation, je pense, de 15% là, par rapport à l'année dernière. Donc, tu sais, c'est, je sais pas si c'est une bonne...
Qui était déjà spectaculaire. Oh,
ouais, c'est ça, évidemment. Là, donc, c'est une entreprise qui va évidemment très bien. C'est, et puis, j'ai nommé ces trois-là, Mario, parce que c'est un peu les trois, là, puis on peut élargir un peu le cercle, mais c'est trois certainement qui sont très impliqués dans la lutte sur l'intelligence artificielle, là, sur le, tu sais, prendre le haut du pavé. T'as peut-être vu, je sais pas si t'es un utilisateur de Facebook là, toi-même, Mario, mais,
non.
Mais ils ont ajouté une espèce de cossin.
D'intelligence artificielle.
Là,
ouais. Il y a des gens qui ça fait peur, puis il y a des gens qui trouvent ça bon.
De... Ben, ça marche pas du tout. Là,
ah non, c'est
ben
de la merde.
Là, c'est, j'ai vu plein de posts là, un peu dérisoires, mais je l'ai pas essayé pour moi, mais tu sais, des amis à moi qui se Google, qui se Facebook, là, en fait, qui se cherche dans cet instrument-là, ils disent qui est Mario Dumont, de sa part dans n'importe quel monde.
Ah oui, c'est pas bon du tout.
Rapport. Je pense que Facebook a pas le niveau d'indexation puis de connaissance d'un Google, par exemple. T'sais, ils ont une partie très, très bizarre de l'Internet, Facebook, quand tu penses alors que Google a comme toute l'Internet, Facebook, ils ont leur petit jardin à eux qui est très incomplet, là. T'sais, c'est, les gens ont mis sur Facebook ce qu'ils voulaient bien mettre sur Facebook, alors que Google indexe toutes les pages web, toutes les, etc. Bref, ça marche pas du tout. Il y a même des mèmes qui ont commencé à sortir sur Facebook et ailleurs de gens qui garochent leur téléphone avec le petit icône de son intelligence. Bref, ça va pas bien. Ceci dit, les résultats sont super bons et je ne sais pas trop pourquoi, là, j'ai lu un peu là-dessus, mais a quand même déçu les analystes parce que quand tu regardes un peu le breakdown, effectivement.
Ouais, mais c'est parce que des fois, une action a tellement monté que pour justifier d'être si haute, les gens s'attendent à des résultats ouais. qui se peuvent même plus là,
non, c'est ça, mais l'action a quand même perdu 10% de sa valeur contre une forte augmentation.
Mais elle a pris quoi, 100% revenus. Depuis un an ou deux?
Ça, ça va bien, mais tu sais, c'est quand même, tu sais, perdre 10% quand tu vaux 1,2 trillion de dollars, c'est comme 100 milliards dans la journée, tu sais. How was your day?
j'ai perdu 100 milliards.
Monsieur Zuckerberg a d'autres préoccupations que les nôtres, certainement, mais c'est, non, sinon, en fait, tous les résultats sont au vert. Là, ce qui est un peu, entre guillemets,
Microsoft
la bonne nouvelle.
Fait de l'argent, aussi, Google fait de l'argent.
Tout le monde fait de l'argent, mais encore une fois, ça va être intéressant de commencer à voir là, la portion IA là-dedans. Est-ce qu'elle drive véritablement
moi,
la croissance?
Moi, je veux dire ce que je vois. J'ai l'impression que, comme tout ce qui est à la mode, présentement, n'importe qui présente ses résultats. N'importe quelle grosse compagnie qui est un peu dans les technologies, Facebook ou autre. Puis à l'Assemblée, puis là, je suis même pas des actionnaires. À l'Assemblée, des gens de communication, la veille, ils disent là, notre annonce de résultats, puis notre communiqué de presse, puis tu sais, ce qu'on va mettre comme que... Faut que ça parle d'intelligence artificielle.
Oui, oui.
Faut qu'on dise qu'on est au cœur de l'intelligence artificielle, qu'on progresse sur l'intelligence artificielle. Ouais. Fait que tout le monde parle d'intelligence artificielle, et moi, mon impression, c'est qu'il y en a une partie qui est de la bullshit.
Oui, ben c'est ça, effectivement.
On fait semblant,
ben,
on dit qu'on est dedans, mais que t'as pas de... Je te parle pas de Microsoft, il y a des vrais gros joueurs qui font des pas de géants, on a vu ChatGPT, mais je pense que t'en as d'autres qui disent intelligence artificielle, ils disent le mot puis ils le répètent, mais ils l'utilisent un peu, mais c'est pas une révolution.
Et je voulais, on peut finir là-dessus sur Microsoft, mais tu sais, Microsoft par exemple, tu sais, c'est un bon exemple, ils disent IA, ils ont investi dans OpenAI, ils ont lancé plein d'affaires, ils ont mis ça dans Bing. Est-ce que tu utilises Bing, Mario?
Personne, Bing,
pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
Rectificatif, tout à l'heure, dans Tout savoir en 24 minutes, on a parlé de dynamite trouvée au devant un dépanneur dans le quartier Rosemont.
Rectification, parce que on croyait que c'était de la dynamite, donc on a bel et bien évacué le quartier, les artificiers sont présentés sur place et tout pour essayer de désamorcer le colis qui était censé être de la dynamite, mais finalement, ce serait pas ça. On parle d'une espèce de set de batterie. Les informations qu'on a pour l'instant, comme tu sais, des grosses batteries, là, c'est, on se comprend, c'est comme une forme de bâton.
Que les premières personnes qui ont ouvert la boîte, on pensait de la dynamite.
Ouais, qui devait être relié avec un fil, tu sais, s'apparentant presque à, si on veut, la corde, là, qui relie les dynamites ensemble. Bref. C'est pour l'instant le danger écarté. Ils vont une enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était. Donc, il y avait pas de dynamite dans
l'eau. Clairement, ça a été oublié, là. Si c'est des batteries, ça doit être quelque chose qui vaut assez cher, que personne n'aurait laissé là pour le fun. C'est probablement un oubli.
Le mystère reste entier pour l'instant, Mario.
Et tu me parles de Walt Disney?
Ben oui, de Walt Disney World, un endroit magique, magnifique pour toute la famille.
Mais... Avec ses personnages.
Avec ses personnages, mais là, le problème, c'est que quand t'es un personnage, t'es pas censé le dire.
Et c'est ce à quoi s'est frottée Madame Sophia Dautire, 21 ans, qui était jusqu'à très récemment celle qui incarnait Blanche-Neige, hein, donc avait la belle robe, la coiffure et tout, se promenait dans le parc. Le problème, c'est...
Elle se faisait pogner les fesses par des nains.
Voilà. Et là, ben, décide...
7. Pour être précis.
C'est beaucoup de nains avec qui habiter, quand même. Oui. Voilà. Et là...
Ils sont toujours pognés après sa jupe, là, non?
Je peux pas me prononcer là-dessus, okay. Mario. Il me pense aux enfants qui écoutent, qui écoutent l'émission. On pense à tout ça. Bref.
Hi-ho. Hi-ho.
Je veux pas entendre la suite.
OK.
Bon. OK. Hey, et puis là, mais Madame Blanche-Neige, Madame Sophia Dautire, mais le problème, c'est qu'elle a fait une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle elle met une photo d'elle tout petite enfant, là, petite fillette, avec la robe de Blanche-Neige, puis une photo de elle, maintenant adulte, en disant comme, ben oui, vous voyez, là, les rêves deviennent réalité.
Ah, je comprends.
Mais là, le problème, c'est que il y a une politique interne qui dit que quand t'es un personnage, t'as pas le droit de le révéler sur les réseaux sociaux. T'es supposé dire « je suis l'ami de Blanche-Neige » ou quelque chose du genre. Ce qui fait en sorte, ben, qu'elle s'est faite sacrée dehors. Elle a perdu sa job, Mario, pour avoir fait ça. Et là, ben, être en beau maudit, le fait savoir partout sur les réseaux sociaux. Elle a brisé le mystère, Mario. La magie est morte.
La magie de Disney s'est perdue sur les réseaux sociaux.
Ouais, malheureusement.
Encore une tare de Facebook. Merci, Alexandre.
Salut.
Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
Ce matin, les lecteurs du journal américain très célèbre, le USA Today, pouvaient lire un article sur les feux de forêt canadiens. Parce qu'ils ont quand même été aux États-Unis, en tout cas pour une bonne partie du territoire du pays, un petit peu traumatisés l'année passée. Par la descente de la fumée, par la qualité de l'air. Écoutez, vous vous souvenez des images à New York où les gens, sur la rue, les gens avaient de la misère à voir les édifices, les grandes tours. Il y a eu vraiment beaucoup de fumée et c'est descendu quasiment jusque dans le Midwest américain. Et donc, les Américains se posent la question en disant, mais ils commencent déjà, plus tôt que d'habitude, à y avoir au Canada des feux de forêt et des conditions favorables aux feux de forêt. Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications de la SOPFEU, est avec nous. Bonjour, M. Caron.
Bonjour.
Je vous demande pas d'avoir une boule de cristal, mais les conditions là à l'heure actuelle, est-ce que c'est vrai qu'elles sont particulièrement favorables à l'arrivée de feux de forêt?
Ben, les conditions, comme on l'a expliqué au cours des dernières semaines, c'est qu'on a un printemps hâtif. Ça, c'est indéniable. Le couvert de neige a disparu beaucoup plus vite que d'habitude, surtout dans le sud du Québec. Ça a entraîné inévitablement le début de notre saison plus vite. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, on a déjà là, pas loin d'une cinquantaine de feux de forêt recensés depuis le début de la saison. Habituellement, à pareille date, la moyenne des 10 dernières années, ça serait plutôt 28 feux. Donc, on en a eu plus. Mais on peut pas déduire de cela que la prochaine saison, là, au niveau de l'été, va être catastrophique comme on a vécu l'année passée. Ça, on n'a pas de boule de cristal pour le dire. Ça va dépendre des précipitations, notamment, qui vont tomber au cours du mois de mai.
C'est une question que je me posais, là, parce que, bon, une des conditions pour éviter les feux de forêt, c'est d'avoir l'espèce de fond forestier, de sous-sol forestier qui demeure humide, là, l'humus, les feuilles, tout ça. Et c'est quoi l'importance de la neige? Parce que quand la neige fond, c'est beaucoup d'eau, ça garde ça, ça laisse ça humide, versus les grandes pluies qui suivent. Est-ce que la neige est si importante ou est-ce que si on a de la pluie toutes les semaines, on garde une humidité qui est quand même favorable? C'est quoi l'importance de la neige par rapport aux pluies du printemps et aux pluies de l'été?
En fait, c'est comme une équation mathématique. C'est qu'on part cette année, là, parce qu'il y a eu moins de neige, avec un déficit d'eau, si on peut dire, là, dans la forêt, dans le sol de la forêt, ce qui est déjà en soi un indicateur de potentiel de feu. Mais tout ça peut être contrebalancé par justement des pluies significatives dans différents secteurs. Donc, c'est toujours difficile d'avoir une vraie boule de cristal là, qui va nous dire « voici la prévision pour la saison ». Vous savez, on travaille fort avec différents chercheurs, avec les agences des autres provinces, des autres pays, à établir des modèles qui pourraient nous aider à prédire les saisons. Parce que ça, si on arrivait avec des données là, qui nous aideraient en ce sens-là, on pourrait déployer davantage de ressources à certains endroits, mais les modèles qu'on a en ce moment sont encore en développement puis n'ont pas un niveau de fiabilité là, significatif.
Au niveau du message là, de votre codification des risques là, que vous présentez aux villégiateurs, aux gens qui vont en forêt, aux gens qui vont faire des feux potentiellement en forêt, on est où présentement? Est-ce que l'indice est... On n'est pas encore... Il n'y a pas d'indice élevé à nulle part. On est dans quel genre d'indice là, présentement?
Ah oui, on est dans des indices élevés aujourd'hui.
Ah oui, déjà?
Là, oui, pas là où il y a encore de la neige. On s'entend que plus au nord, là, il y a encore de la neige. Mais au printemps, c'est normal. Là. Au printemps, ce qui compte beaucoup, c'est la végétation morte. Hein, nous, on appelle ça le combustible léger au sol. Là, les brindilles, les vieilles branches mortes qui sont tombées pendant l'hiver, la broussaille dans les champs. Tout ça est sec parce que c'est de la végétation morte. Alors, au printemps, ça prend juste un peu de vent, un peu de soleil. Et rapidement, le danger d'incendie augmente parce que c'est de la paille, ça peut s'enflammer rapidement. Quand la saison avance, là, la végétation verte va sortir et ça, c'est moins inflammable.
Et quand la végétation verte prend le dessus sur tout ça. OK, donc on est présentement dans des indices élevés parce qu'il n'y a plus de neige, puis on a cette végétation morte qui est découverte. Quand vous dites on a eu 50 feux de forêt déjà, est-ce qu'il y en a un, deux, trois qui ont une certaine importance ou c'est tous des petits feux que vous avez rapidement maîtrisés?
Ben généralement, au printemps, là, on a plusieurs feux. Hein. Les gens le soupçonnent pas, mais on en a vraiment beaucoup au printemps. Mais c'est des petits feux, 1 ou 2 hectares. On en a un en ce moment, si les gens regardent sur notre carte, là, vers le coin de Rimouski, qui est de 11 hectares. C'est un feu un peu particulier là, qui a brûlé dans la tourbe. Il est encore actif, mais il est maîtrisé. Donc ça, c'est exceptionnel. En général, là, 1 ou 2 hectares à ce temps-ci de l'année. Puis une des raisons, c'est parce que ces feux-là surviennent proches des communautés. C'est souvent des brûlages de rebut. Hein. Les gens font des brûlages, ils soupçonnent pas que l'indice du danger d'incendie est élevé et ils vont échapper leur feu et ça va se propager au champ derrière la maison. Et le fait que ça soit proche des communautés, ben la personne, si elle échappe son feu, elle appelle tout de suite le 911 ou les pompiers municipaux. Puis donc, il y a une intervention rapide qui fait que le feu ne se déploie pas autant que l'été quand c'est dans des secteurs plus éloignés.
M. Caron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure.
On parle sport avec Jean-François Barry. Jean-François, bonjour.
Salut Mario.
Il me semble que les séries viennent tout juste de commencer, puis il y a déjà des équipes qui font face à l'élimination.
Ah oui, mais je pense que quand on va se reparler lundi, il va y avoir des équipes déjà éliminées. Je donne pas cher honnêtement de la peau des Islanders. Pour ce qui est du Lightning, je trouve que le Lightning aurait mérité un meilleur sort. Là. Ça devrait pas être 3-0 dans cette série-là. Hier, aurait dû gagner cette partie avec un peu d'opportunisme. Ils se sont fait refuser un but sur un avantage numérique parce qu'on a dit qu'il y avait hors-jeu. Bon, il y avait hors-jeu, mais je veux dire, on était quand même tout près. Ensuite de ça, il y a eu le match précédent qui s'était terminé en prolongation. Fait que, est-ce que le Lightning peut revenir gagner? Non. Mais est-ce qu'ils peuvent étirer ça en 5 ou en 6? Peut-être. Les Islanders, on sent qu'ils sont plus là présentement. Ils ont fait une grosse poussée vers la fin pour essayer de se tailler une place en série.
Ben, c'est ça l'affaire. Quand tu t'épuises, quand tu te fais des séries éliminatoires dans les dernières 6 semaines pour rentrer dans une série, tu rentres en série et c'est genoux, c'est rotule.
C'est en plein ça. Puis, tu sais, ils affrontent toute une machine de hockey. Reste que je voulais qu'on jase ensemble aujourd'hui. Il y a Charles-Alexis Brisebois sur le site Dans les coulisses qui a sorti cet article-là. Puis, je trouve ça intéressant. Tu sais, on a parlé souvent, toi et moi, de la reconstruction du Canadien. Puis, dans le fond, ce qu'il dit, c'est la pire chose à faire. C'est ce que les Islanders font présentement. Parce que les Islanders, on pourrait les envier de dire qu'ils sont en série. Ils vont se faire sortir en 4 ou en 5. Ils n'ont plus rien dans les banques. Ils n'ont plus de choix parce qu'à chaque année, ils échangent des choix pour avoir des joueurs, pour essayer justement de se tailler une place en série. Mais c'est quoi l'avenir des Islanders? T'sais? Quelle équipe, selon toi, Mario, a le plus de chances, mettons, dans les 15 prochaines années de se rendre dans le carré d'as? Moi, je pense que le Canadien est beaucoup mieux nanti parce qu'on a plein de jeunes qui poussent. Puis le jour où ce sera le temps d'aller chercher un gros joueur, on va pouvoir donner quelque chose en échange. Alors que les Islanders vont toujours être dans cette espèce de mi-couche, là, pas des bonnes équipes, pas des mauvaises équipes, comme entre les deux. Puis on a fait ça pendant longtemps, mais tout le temps qu'on avait Carey Price, on a fait ça.
Non, je comprends très bien. Et qu'est-ce que tu retiens quand même de la situation des gardiens? Parce que ils ont un entraîneur qui est un des grands gardiens que la Ligue a connu, Patrick Roy. qui met le deuxième gardien Varlamov, qui a l'air à aimer dans le match numéro 1, dans le match numéro 2, qui est pas pourri, qui est pas mauvais, mais qui est pas assez bon. En tout cas, ils gagnent pas, mais il faut dire qu'ils se font tellement dominer au chapitre des tirs au but. Il y a eu un match de 40 contre 13, quelque chose comme ça. Là, après ça, il revient avec ce qui est censé être son premier gardien Sorokin, puis là, il l'enlève hier dans le milieu du match, alors qu'il avait accordé pas 7 buts, mais 2.
3. En fait, c'est après le troisième.
Mais
quand même, il était pas. En plus, Sorokin n'était pas. Je vais le dire souvent, on dit ça des gardiens, il était pas sharp, là. Il était pas. Mais il était pas atroce non plus. Il était pas en train de coûter le match. Ce que ça laisse voir, c'est qu'il en a pas confiance. T'sais, il a fini l'année avec Varlamov. Il a commencé les séries avec Varlamov. Là, il s'est dit, bon, ben, je vais aller avec Sorokin. Dans le fond, c'est lui le gardien d'avenir. Là. Il a un contrat, je pense, de 7 saisons avec les Islanders. C'est mon numéro 1. Je vais lui donner une chance, mais aussitôt. Tu sais, quand t'as pas confiance en quelque chose, il est tout de suite revenu à Varlamov, puis ça
revient. Mais en même temps, si,
longtemps dans, je sais pas si t'as vu, dans le tunnel, là, près du banc qui amène à la chambre, il est resté là avec son masque. C'est sûr qu'il est pas content. Ça va même être, à mon avis, quelque chose à gérer cet été, là. Lou Lamoriello va devoir asseoir Sorokin et Patrick Roy ensemble, puis dire là, parlez-vous, parce que lui, je viens de le signer pour 7 ans, puis lui, je viens de l'engager comme entraîneur. Là. Puis l'autre, Varlamov, il a 32 ans, je pense, quelque chose comme ça. Fait que il va pas être là pour des années et des années. Là. Fait qu'il faut trouver une solution pour que ça marche entre vous deux. Mais un gardien qui analyse un autre gardien, ça doit pas être évident.
Ben, c'est ça, je me dis. Patrick Roy, il sait c'est quoi un gardien un petit peu. Là. Puis bon. Fait que s'il sent pas de même, je me dis, y a-t-il quelque chose de fondamentalement qui marche pas avec Sorokin, avec sa confiance, avec son style, avec sa méthode, avec son attitude en rien? Pourquoi Patrick Roy a pas confiance en ce gars-là? Moi, je me dis, je connais assez Patrick. Ouais, il y a des raisons. Il y a quelque chose qu'il aime pas.
Mais en même temps, Sorokin a amené si les Islanders à chaque année se tiennent là, c'est beaucoup grâce à Sorokin. L'année passée, il a fini deuxième pour le Vezina, du meilleur gardien de la Ligue. Je pense que l'année d'avant, il avait fini quatrième. Je veux dire, moi, dans les poules de hockey, c'est toujours un gardien qui sort rapidement parce que quand il est dans sa zone, c'est un gars qui ramasse des jeux blancs avec le système de jeu aussi des Islanders. Fait que, tu sais, ça se peut qu'il y ait une mauvaise saison, là, mais ça, est-ce que ça se peut aussi que de sentir que ton entraîneur n'a pas confiance en toi fait en sorte que ta confiance baisse, puis là, à un moment donné, c'est un cercle vicieux. Ouais. Mais en tout cas, ils sont là pour rester pour au moins 2 ans, les deux, là. Fait qu'il faut, il va falloir trouver une solution. Ça, ouais. C'est sûr et certain. Ouais.
Toronto-Boston ce soir.
Non, en fait, c'est ça,
Toronto-Boston. C'est ça, demain soir.
C'est demain soir, puis Jim Montgomery était déjà pas content parce qu'il a dit « ça n'a pas de bon sens, c'est nous qui avons terminé premier, puis on se retrouve à être sur la route plus longtemps. » Parce que là, dans le fond, ils sont pognés à Toronto à l'hôtel pour 2 soirs au lieu d'avoir un match aux 2 jours. Puis il dit « tu sais, c'est nous qui devrions être favorisés par le calendrier. »
Pourquoi? C'est-tu juste pour ramener un match le samedi soir parce qu'on aime les matchs du samedi soir ou il y a d'autres raisons?
Non, je pense que l'amphithéâtre était pas libre du côté de Toronto ce soir. Là, je sais pas ce qu'il y a, quel événement il y a. Mais ce qui va, ça, il a dit ça quand il est parti de Boston. Mais là, ce qui va le faire réagir encore plus, c'est que William Nylander, ben, qui est blessé, qui a manqué les 3 premiers matchs, ben, ça lui donne une journée de plus pour se reposer. Et là, la grosse rumeur, c'est qu'il serait dans le match numéro 4 entre les Bruins et les Maple Leafs. C'est une des bonnes séries à suivre, Mario. Fait que ça, on va suivre ça samedi soir. Sinon, ben, ce soir, Capitals Rangers. Ça, il n'y a pas un gros enjeu. Est-ce que les Canucks vont réussir à gagner sans Thatcher Demko? J'ai bien hâte de voir ça du côté de Nashville. Moi, j'aime bien les chances de Nashville, comme tu le sais, et les deux meilleures séries, Winnipeg, Colorado et Oilers, Kings, ils jouent du gros hockey dans ces deux séries-là. Je mettrais Tampa Bay contre Floride, ça a joué du hockey. Là. Hier, presque 150 mises en échec. Ça jouait comme son temps en demi-finale. Là.
Ouais. On connaît la date et les probabilités, là, le fameux boulier pour décider qui aura le premier choix.
Oui, parce qu'on pourrait être chanceux, hein. T'sais,
c'est ce Canadien, c'est 8, c'est quoi 8.5, 7.5?
8.5% des chances. On l'a vu cette semaine avec la Ligue junior majeure du Québec. C'est l'équipe qui avait 14% des chances qui finit par repêcher en première position. Bon, le Canadien en a quand même un peu moins. Bref, ça va être le 7 mai prochain qu'on va être le rang au repêchage du Canadien. Je vous rappelle que les deux formations qui ont le plus de chances dans le boulier, c'est les Sharks de San Jose à 18.5 chances et les Blackhawks de Chicago pour une deuxième année à 13.5 chances. Imagine Connor Bedard avec Malcolm Celebrini, ça serait juste fou pour les prochaines années. Ça rappellerait un peu Taves et Kane, là, Patrick Kane dans les belles années des Blackhawks. Mais si jamais les Canadiens vont être le premier, si on pouvait quand même descendre, de ce que je comprends, il y a de très bons dans le top 5. Fait que si les Canadiens pouvaient s'avantager 3, 4, 5, ce serait quand même intéressant pour eux.
Ouais. Force d'accumuler des choix au charge, on va finir par arriver à quelque chose. il faut espérer. Merci beaucoup, Jean-François.
Salut, Mario. Bon week-end.
Bye-bye. Bonne semaine. Merci à vous d'avoir été là. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi 16h.